et comment on pourra également l'envisager dans le cadre du PIDA partout. Donc, vous avez la présentation qui sera déroulée pendant que je parle. Christina, si tu veux bien.
Oui, ok. Donc, est-ce que vous avez fait des changements parce que ce que je vous ai envoyé,
Non, non, pas de changement.
donc je projette ce qui la raison d'y être. Ok,
Voilà,
merci.
pas de changement. Merci.
Ok.
Docteur Krishna,
Oui, allez-y.
on a un problème de son, hein?
Comment ça? Vous m'entendez là? Est-ce que là, vous m'entendez?
Je dis, on a un problème de son.
Ah,
Oui,
vous arrivez
là,
à...
c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Vous arrivez à m'entendre? Ouais.
OK. Je pense que oui.
Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui, ça apparaît. C'est bon.
Moi, je vois, ça apparaît.
D'accord.
Oui, voilà.
OK, Mike, à vous.
OK, parfait. Alors, voilà.
Développement puis la session thématique sur le financement des projets.
Vous avez là l'aperçu de ce que fait la banque. L'aperçu de la présentation. Donc, un, ce que fait la banque. Deux, l'utilisation des projets régionaux. Trois, solutions pour l'évaluation et développement de projets. 4, financement de projets du secteur public. 5, solutions de financement de projets du secteur privé, la PPP. Et 6, recommandations paiement de porteurs de projets.
Là, il y a un problème là. On n'entend pas
Et
bien.
ça? On n'entend pas
N'entend pas
très
bien l'intervenant.
Mike, ils disent qu'ils vous entendent pas bien. Bon, déjà, peut-être qu'il faudrait
Allô?
Oui,
Oui,
vous
avec
m'entendez.
Krishna, ça
Il y a
va. Avec Krishna,
quelques...
ça va. Avec l'intervenant,
Ah,
ça va pas.
OK. Mais Mike, peut-être qu'il faut se rapprocher du micro. Mais je vois, il y a certains micros. Nadio, par exemple, je vous demanderai, Jerry, si vous pourriez, quand vous vous connectez, s'il vous plaît, éteignez le micro quand vous ne parlez pas. Il faudrait que si on laisse qu'un micro, ça risque d'aller mieux. Donc, allons essayer. Nadio, s'il vous plaît, gardez votre micro off quand vous ne parlez pas. Donc, je vais me mute ici et Mike, je vous laisse. Mais peut-être qu'il faut parler un petit peu plus fort, plus près du micro, je ne sais pas.
OK, vous m'entendez maintenant?
C'est beaucoup mieux maintenant.
Ah, parfait. OK. Alors, donc, je lisais juste ce qu'il y a sur le slide, hein, l'aperçu de la présentation en 6 points. Voilà, donc on peut passer au slide suivante. OK, alors, une seconde, une technique là. Allô, vous m'entendez?
Oui, très bien, Mike. Allez-y.
OK, juste avoir la présentation sur mon écran. Dissocier là, une petite seconde. Juste 2 petites secondes, hein. Je suis en train de reconnecter pour. le représentant. OK. Bon, ça semble se stabiliser maintenant. Alors, ce que fait la banque? Comme vous le savez, hein, nous sommes plus qu'une simple banque. Ce n'est pas juste les questions de financement qui nous intéressent, mais il y a aussi les questions de développement, avant tout, et aussi les questions de conseil et de génération du savoir. Donc, la Banque africaine de développement est un tout. Alors, notre rôle d'intermédiateur financier technique est très connu. La banque a plus de 50 ans d'expérience sur le continent, vous en savez mieux que moi. Fort soutien de 54 pays africains et 27 pays non africains. Donc, en tout, 81 pays soutiennent la Banque africaine de développement, font partie de son actionnariat. La banque tire parti de sa structure publique-privée unique qui fait qu'on peut parler des deux langues privées et publiques en même temps au sein de l'institution et par chacun de vos interlocuteurs à la banque. Nous avons une notation de triple A qui est connue depuis un moment. Travailler dans l'intérêt du pays et du projet plutôt que de maximiser les revenus de la banque. Donc, comme j'ai dit, la banque est une banque de développement. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider les pays à mettre à disposition, en mettant à disposition des moyens et financiers et humains pour arriver à soutenir le programme de développement des pays. Donc, ce n'est pas vraiment de faire du profit ou de maximiser les revenus de la banque. L'autre pilier, c'est aussi un financier souverain et non souverain. Je disais tantôt qu'on a les deux structures publiques et privées à la banque. Donc, on finance des projets secteur public, entendons ici par tout ce qui est financement souverain à travers le gouvernement. Donc, le gouvernement sollicite la banque pour financer des projets de développement. Et du secteur privé, tout ce qui est, concerne des projets portés par des privés, par des personnes privées, des sponsors privés qui développent un projet industriel dans un pays ou même un projet d'infrastructure financé purement par le secteur privé. Alors, ces financements sont mis en place à travers des crédits aux entités souveraines, donc ici le gouvernement ou bien aux entreprises publiques, autonome qui pourra aussi prendre des prêts, mais garantis toujours par le gouvernement du pays en question. Et on le fait en monnaie locale et aussi en devise, beaucoup plus en devise qu'en monnaie locale. Voilà. Next. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on a, pour ça, on a une multitude d'instruments. Donc, il y a les financements de projets, les prêts souverains, non souverains, fonds propres, ce qu'on appelle l'equity. Il y a des subventions d'assistance technique, donc il y a des fonds fiduciaires qui sont logés à la banque. Il y a aussi le FAD qui également fait des dons pour financer des projets, des études et aussi financer des réformes, des projets de réformes structurelles, économiques, de gouvernance dans le pays. Il y a aussi tout ce qui est services consultatifs et de structuration de projet. En plus de ces deux, il y a aussi le troisième pilier, c'est les garanties. La banque émet des garanties pour renforcer l'attractivité des projets, aussi atténuer les risques liés à certains projets, notamment dans le cas des projets impliquant le secteur privé. Next. Alors, les entreprises publiques, privées, financièrement solides, oui. Et donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, voilà comment ça se présente de façon schématique. Il y a ce qu'on appelle le secteur public, donc la fenêtre du secteur public et la fenêtre du secteur privé. Alors, les bénéficiaires, ce que je viens de rappeler tout à l'heure, le gouvernement, dans le cas du secteur public, c'est le gouvernement ou entreprise publique. Et dans le cas du secteur privé, c'est les entreprises privées, entreprises publiques financièrement solides qui peuvent prendre des prêts du secteur privé. mais ça, cela est rare. Deuxième catégorie, donc, c'est les garanties souveraines au secteur public, les garanties non souveraines sur des projets du secteur privé. Et là, un peu, on a un rôle dans les cas du secteur privé, mais avec une grande différence, c'est que nous, on a une maturité beaucoup plus longue et aussi des taux d'intérêt beaucoup plus attractifs. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Les conditions financières, donc comment on peut s'attendre. Donc, il y a les thèmes préférentiels pour le gouvernement. Et là, il s'agit de mettre à profit la notation triple A de la banque qui lui permet d'avoir des conditions vraiment attractives et uniques sur le marché financier international permet à la banque de mobiliser des ressources à des frais vraiment attractif qui par la suite est passé au gouvernement dans ces termes-là. Donc c'est assez préférentiel et qui font que encore une fois on maintient notre caractère de banque de développement, pas une banque commerciale qui est là pour faire profit. Par contre pour le secteur privé et là aussi on a des termes commerciaux mais encore une fois très compétitifs, ce n'est pas comparable à ce que pourra donner une banque commerciale et donc encore une fois on est assez compétitif et on reste toujours avant tout dans notre posture de banque de développement, c'est-à-dire mobiliser des ressources à bas coût et les transmettre au gouvernement pour financer des projets dans ces mêmes termes et dans le cas du secteur privé, peut-être en ajoutant deux, trois petites commissions ici, mais encore une fois, largement en dessous de ce que peuvent offrir les banques commerciales de la place. Next. Alors, donc, comment finançons-nous les projets régionaux les projets régionaux, dans ce qui nous concerne ici, si on va parler beaucoup plus de PIDA, c'est que d'abord, on voit la priorisation de ces projets dans le cadre du PIDA, le PIDA qui est le programme de programme de développement de l'infrastructure en Afrique que vous connaissez très bien, l'objet de cette rencontre également. Et d'abord, savoir si ça fait partie, le projet en question fait partie du PIDA, figure-t-il dans le plan directeur des infrastructures régionales. Donc, on regardera si les master plans des REC, des REC comme ECOWAS, ADEC, UMROA, un peu partout, et CAS, si ces projets figurent dans leur plan stratégique, est-ce qu'il est contenu également dans le plan stratégique ou les programmes nationaux de développement des pays. Tout ça, c'est pour s'assurer de l'alignement stratégique de ces projets. Donc, un projet régional ne sera pas un projet qu'on va inventer de toutes pièces. C'est un projet qui, d'abord, figure dans le plan national de développement, donc une priorité au niveau national, demeure une priorité au niveau régional, donc sera reflété dans le plan directeur projet prioritaire, et également répond au programme du PIDA. Donc cet alignement stratégique est très important pour nous dans le cadre de financement des projets PIDA. Alors, deuxième chose, c'est que une fois que ça s'est établi, donc il faudrait également s'assurer qu'il y a les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, regardons les accords nécessaires entre les pays bénéficiaires de ce projet ou les pays qui vont financer ces projets doivent avant tout avoir des accords qui les lient et qui disent de façon très claire comment est-ce qu'ils vont financer ce projet. Troisième chose, on peut dire hein, là des critères. Hein, les critères troisième critère, c'est que on regarde la viabilité économique et financière des projets. Bon, ça c'est sur base éventuellement des projets, des études existantes. Donc, il y a une étude existante sur ce projet. Oui, on regardera les taux de rentabilité, la viabilité financière. Comment est-ce que ce projet va contribuer de façon générale au développement économique du pays, en quoi ce projet va être solvable pour les pays qui le font, c'est-à-dire ils mettent un investissement X et quel est le retour sur l'investissement qui est attendu de ce projet. Donc, il y a à peu près ces critères qui seront regardés de façon critique par la Banque africaine de développement, et ceci est valable aussi pour d'autres acteurs de financement qui regardent tous ces éléments avant de soutenir un projet quelconque. Je suppose également que ceci est vérifié aussi au niveau des pays, parce qu'avant tout, ce projet, c'est le projet des pays. Donc, je vois très mal un pays financer un projet ou décider de financer un projet si ces trois éléments ne sont pas réunis. Next. Alors, donc, ça continue. Donc, on regarde également l'impact environnemental du projet. Donc, il y a des études spécifiques qui doivent être faites dans ce cadre-là pour s'assurer que les impacts environnementaux, sociaux et sociaux sont bien identifiés. Et donc, ceux qui ont des impacts négatifs sont également bien identifiés, étudiés. Et tel impact fera l'objet d'un plan d'atténuation clair qui va être implémenté par le gouvernement en collaboration avec les parties prenantes. Et donc, tous ces plans, études et plans de gestion d'impacts environnementaux et sociaux sont bien évalués et identifiés dans le cadre des projets. Puisqu'on parle des projets régionaux, bien évidemment, l'impact régional sur l'intégration régionale est un facteur clé. Donc, c'est de déterminer en quoi ce projet va contribuer à promouvoir l'échange interrégional et également rapprocher les pays les uns des autres en les interconnectant, que ce soit par la route ou le chemin de fer ou par l'interconnexion énergétique ou interconnexion technologique, donc l'ICT, et aussi par le secteur de l'eau. Donc, et en quoi ça fait la promotion du commerce intra-régional. Comme vous le savez, c'est un aspect très, très faible, et ceci est aussi lié au manque d'infrastructures régionaux, d'où l'importance que prend le programme PIDA. Et bien évidemment, on regarde également l'état de préparation du projet, parce que plus le projet est bien préparé et prêt, et plus les financiers, je veux dire les institutions de financement, sont prêts à soutenir ce projet. Donc, vous pouvez imaginer qu'un projet qui nous est envoyé pour financement, qui a des éléments qui manquent ici par là, ou bien la requête n'est pas bien ficelée, ou les institutions qui doivent mettre en œuvre ce projet ne sont pas encore prêtes, où il n'y a pas de capacité, où il n'y a pas d'engagement entre les pays et tout, vous voyez que ce projet peut être recalé et renvoyé aux sponsors pour plus de travail. Donc, l'état de préparation du projet est très important et pour nous, c'est un élément clé qui détermine un peu la vitesse avec laquelle la banque peut rapidement s'engager sur un projet. On regarde un peu les aspects techniques, les aspects financiers, les aspects institutionnels, les aspects de capacité pour voir si ce projet est prêt. Et dans ce cas, ça fera l'objet d'attention particulière de la banque. Donc, c'est vraiment une étape très, très, très importante dans l'évaluation de l'éligibilité des projets régionaux à la banque. Merci. Next. Oui, alors, donc, une fois tout ça c'est fait, que dispose la banque en tant qu'instrument pour accompagner les projets régionaux sur le continent? Comme je disais tout à l'heure, la banque est une institution leader sur le continent en matière de financement et de développement. Donc, on a une multitude d'outils qu'on utilise pour pouvoir financer les projets. Ici, on va d'abord commencer par ce qui est la préparation de projet, parce qu'avant le financement physique, il faut d'abord préparer ces projets, il faut les structurer, il faut les développer, les amener à maturité avant d'aller sur une décision d'investissement qui va aboutir sur un appel d'offres et qui va aboutir sur la construction de cette infrastructure. Donc, la préparation est une étape capitale, c'est l'étape la plus risquée, c'est l'étape où personne ne veut mettre des ressources, c'est l'étape qui vraiment détermine la suite, mais très peu d'acteurs sont présents. Et on va aussi en parler pourquoi. Alors, ici, vous avez une longue liste devant vous, à peu près 25 instruments de financement de préparation de projet plus ou moins gérés par la banque, donc créés et gérés par la banque. Il y a le NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility, donc c'est le fonds de préparation de projet d'infrastructure du NEPAD qui est créé par la banque et géré au sein de la banque. Et donc, ce fonds, qui est un fonds qui soutient uniquement les projets régionaux, donc c'est un des rares fonds qui est entièrement dédié à la préparation, au développement des projets régionaux seulement. Et donc, ce fonds est géré par la banque qui assiste les pays, donc il y a les pays, assiste les organisations économiques régionales et aussi les autres institutions régionales pour préparer les projets. Donc, seuls les gouvernements et les institutions régionales sont habilités à envoyer une requête à la banque pour préparer des projets régionaux au NEPAD, en utilisant le fonds du NEPAD IPPF. Donc, en termes de secteurs, ce fonds soutient les quatre secteurs identifiés comme tels dans le programme PIDA. Donc, il y a le ICT, donc tout ce qui est backbone, tout ce qui est câbles sous-marins, interconnexions terrestres et autres formes d'interconnexion en ICT. Le transport dans tous les sous-secteurs du transport, donc il y a le port, les routes, le pont. On a également les aéroports et le métro et tout forme de transport. On a aussi fluvial, donc il y a le transport fluvial aussi qui est aussi considéré. En secteur de l'énergie, il y a la production, le transport et également très peu la distribution, on va dire, mais beaucoup plus la production, le transport, qui sont des projets qui interconnecte les pays normalement. Il y a aussi dans le secteur de l'eau, de l'assainissement, donc c'est la gestion déjà des cours d'eau inter-régionaux sont pris en compte, aussi le transfert de la ressource eau d'un pays à un autre, donc tout ce qui est eau dans le cadre d'un projet régional également sont soutenus par le fonds et par la PPF. Et jusqu'à présent, c'est le NEPAD IPPF soutient ces projets à travers des dons. Donc, c'est les ressources dons qu'on fait pour faciliter la préparation et le développement de ces projets en vue de leur mobilisation de ressources pour leur mise en œuvre. Mais très graduellement, d'ici la fin de l'année, on va introduire une autre composante des instruments du NEPAD IPPF. Ce sera un don, mais don qui sont remboursé. Donc, ce ne sera plus de dons à 100% comme ça, mais c'est des dons qui sont remboursés une fois ce projet fini, préparé, fini et qui a une implication du secteur privé dans le projet. Donc, vous comprenez très vite que ce sera le projet à caractère PPP qui seront beaucoup plus utilisés pour ces instruments. Donc, on aura deux instruments. Un, les dons. Deux, les dons remboursables. Voilà un peu les instruments dont on dispose de NEPAD IPPF. J'insiste là-dessus parce que c'est l'instrument qui vous est beaucoup plus adapté dans le cadre de projets régionaux. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc je ne vais pas passer les 25 en détail, mais je vais rapidement juste énumérer ceux qui sont pertinents. Le reste le sont également, mais peut-être dans une moindre mesure. Donc, il y a le Africa Legal Support Facility, donc qui est une facilité, un instrument de soutien à tout ce qui est le soutien légal au projet d'infrastructure aussi. Donc, on l'utilise souvent dans le projet de PPP parce qu'il y aura une implication dans la négociation du contrat de PPP, comment impliquer le secteur privé dans toutes ces distributions de responsabilités. Il y a beaucoup de contrats qui sont rédigés dans le cadre de PPP, donc on utilise le ELSF pour soutenir ces projets. Africa Trade Fund, donc c'est un fonds pour soutenir le commerce africain. Ça, c'est important également pour l'intégration régionale. Et donc, c'est un fonds auquel vous pouvez également avoir accès. Mais ça, c'est spécifiquement pour les questions soft dans le cadre du commerce intra-régional. Il y a les Africa Water Facility, qui est exclusivement dédié au secteur de l'eau, comme son nom l'indique, qui également fait des projets régionaux et nationaux dans le cadre du secteur de l'eau. Donc, c'est entièrement dédié à l'eau, contrairement au NEPAD qui est plus multisectoriel. Il y a également Agricultural Fast Track Fund, bon, pour le cadre de l'infrastructure. Je pense que ce ne sera pas vraiment votre choix numéro un. Congo Basin Forest Fund existe également. Je ne suis pas sûr si c'est encore opérationnel, mais on peut toujours confirmer ça. Il y a le FAPA qui est plutôt pour le secteur privé. Et donc, c'est des fonds qui sont là, qui soutiennent le renforcement de capacités, tout ça dans le secteur privé. Pas de façon directe sur la préparation de projets, mais on l'a quand même mis pour votre information. Il y a ce qu'on appelle le numéro 11, donc Infrastructure Construction for Africa. Alors, là également, ce n'est pas un fonds pour la préparation de projets, mais c'est plutôt une plateforme créée par les pays du G20 avec l'Afrique, et maintenant le G7 initialement, mais dans le G20 avec l'Afrique. Il y a une plateforme qui est hébergée par la Banque africaine de développement qui sert à promouvoir le financement dans les infrastructures en Afrique. Donc, c'est la seule plateforme qui a une composition assez variée qui comprend les pays donateurs, les banques multilatérales de développement et l'Union africaine, l'agence AODA du NEPAD et bien évidemment dans une moindre mesure le pays, mais on va commencer à accélérer l'inclusion des pays et des organisations sous-régionales dans l'ICA. L'ICA est très important pour vous parce que c'est une source du savoir, c'est une source, il fait beaucoup d'études. ICA est une plateforme de collaboration, de dialogue qui apporte, en plus de ce que peut apporter les institutions comme la Banque africaine de développement, le NEPA, le PPF et tout ça en matière de ressources, ICA plutôt apporte plutôt du savoir. Je vous invite également à aller sur le site de l'ICA. Moi-même, je suis le coordonnateur de l'ICA et aussi le gestionnaire du NEPAD IPPF, le fonds dont je vous parlais un peu plus tôt. Making Finance Work for Africa, bon, ça c'est vraiment dans le domaine financier. C'est important parce que, comme son nom l'indique, on travaille beaucoup avec eux pour mobiliser tout ce qui est financement, y compris dans les infrastructures. Ici, il s'agit vraiment du plaidoyer. Hein, c'est encore comme ICA, il y a la même chose comme ICA. Making Finance for Africa fait du plaidoyer pour mobiliser davantage de ressources. Ils n'ont pas de financement en tant que tel à donner, mais ils font plutôt du plaidoyer et ils renforcent aussi les capacités des institutions régionales. ICA a beaucoup fait pour le Power Pool, en l'occurrence, pour renforcer leurs capacités. Mais ils ne font pas de financement de projet direct. Alors, dans cette liste, je vais peut-être m'attarder brièvement sur ce qui vous concernerait ici. Alors, il y a le CEFA, le numéro 19, qui est aussi un fonds qui participe à la préparation de projets dans l'énergie, mais des projets renouvelables, et surtout au niveau national, et avec une forte dose d'implication du secteur privé. Je pense que c'est vraiment ça leur empreinte. Et ce fonds existe également, numéro 19. Et en plus de ça, je pense que, voilà, donc je vais laisser la liste telle qu'elle et vous pouvez éventuellement nous solliciter pour avoir plus d'informations sur le fonds, mais carrément aller sur le site de la banque. Mais là, je me suis concentré sur ce que je pense sont pertinents pour le programme PIDA. Next.
Alors, encore une fois, je disais tout à l'heure, pourquoi le Népal IPPF? Parce que c'est le seul fonds qui est, on va dire, dédié aux projets régionaux et aux projets PIDA. Donc, on l'a beaucoup utilisé dans le cadre du PIDA Papouane pour préparer un certain nombre de projets PIDA et projets régionaux. Donc, je suis sûr que certains d'entre vous, sinon la majorité, est familier avec le Népal IPPF. Vous l'avez même déjà utilisé sur certains de vos projets. Et donc, ce que je dis ici, c'est vraiment un résumé. Et c'est un résumé que je vous donne. Mais le focus, c'est que c'est vraiment un fonds qui peut vous aider dans la structuration de vos projets PIDA et de projets régionaux dans sa généralité. Donc, je disais tout à l'heure que c'est les dons qui sont donnés aux pays africains. Les REC sont bien évidemment les bénéficiaires. Les Power Pool, tout ce qui est institution technique régionale, dont les Power Pool, les agences de gestion de bassin, les corridors, l'agence de corridors et tout, ont été bénéficiaires par le passé et sont éligibles pour bénéficier des ressources du don. Alors, on finance quoi exactement? Donc, c'est les études de préfaisabilité, les études de faisabilité, les études détaillées, les études d'impact environnemental et social, et puis aussi la structuration de projets, donc Transaction Advisory. On fait le Transaction Advisory. On finance également la préparation des projets, donc tout ce qui concerne PPP, donc Transaction Advisory pour aller vers un projet PPP. Également les dossiers d'appel d'offres, donc préparation des dossiers d'appel d'offres. Donc le dossier lui-même, et puis également les plans de financement et financial linkages. Et donc ça, c'est vraiment ce qui peut amener des projets, une fois les études de faisabilité sont prêtes, à aller vers un financement. Des fois, il manque un certain nombre d'actions qui sont ce que vous avez plutôt dans la partie basse du slide. La partie haute, c'est vraiment ce qui est le core business. Les trois autres parties, c'est les éléments nécessaires aussi pour amener les projets à arriver à mobiliser les ressources pour leur financement. Ce qu'on appelle financial close. Next. Alors, comment accéder, ou bien le processus d'approbation du don IPPF? Et comment est-ce que nous, on reçoit les requêtes. Ici, vous voyez de façon schématisée les différentes les différents steps, si je peux m'exprimer ainsi, pour arriver jusqu'à une approbation éventuelle d'un don du PPF. Je disais tantôt qu'il faut une demande, ce qu'on appelle request. Il faut une demande qui doit nous parvenir des bénéficiaires potentiels cités ci-dessous. Donc, les pays, les REC, Power Pool, le River Basin, Corridor Authority, et then Special Regional Institutions, qui peut nous envoyer une requête de financement. Et cette requête doit être signée souvent par les ministères si ça vient des pays, par le REC en question et puis par les autres directions de ces entités-là. Et c'est souvent accompagné par un fichier. Donc, nous, on a notre modèle de demande d'assistance qui peut vous être envoyé une fois on a été contacté. Et une fois, on vous envoie donc une lettre en bonne et due forme qui est signée et qui sera joint à ce format qu'on va vous envoyer pour nous solliciter avec comme ajout tous les documents nécessaires pour permettre une évaluation ou un examen de votre requête. On pourra rentrer en détail avec ça beaucoup plus tard. Deuxième chose, une fois on reçoit cette demande, on passe maintenant à ce qu'on appelle un screening. Donc, on va faire une évaluation à notre niveau, utilisant nos outils pour voir si ces projets sont éligibles à notre financement. Et donc, on regarde tout ce qui est qualité à l'entrée, donc je disais tout à l'heure, quality at entry, c'est les critères que la banque dispose pour évaluer la qualité à l'entrée des demandes de projet. Donc, on regarde les études existantes, on regarde D'abord, la qualité de la demande elle-même. On regarde si les institutions existent pour pouvoir gérer le projet. On regarde si les composantes sont bien identifiées, les estimations de coûts sont faites et qu'il y a tous les arrangements nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Donc, on a nos critères, nous, qu'on regarde. Une fois ces critères remplissent les conditions, on pense que la qualité à l'entrée est déterminée. Je disais un peu plus haut qu'on regarde la priorité. Est-ce que c'est un projet prioritaire dans le cas du PIDA, dans le cadre régional, dans le cadre national? Donc, ces priorités stratégiques vont être évaluées. Est-ce que c'est un projet, une fois fait, peut mobiliser des ressources pour sa mise en œuvre physique? Donc, on voit un peu la probabilité de mobilisation de ressources une fois les études sont faites. Donc, nous, on a notre critère également pour regarder si c'est le cas. Est-ce que les pays qui décident de faire ces projets disposent eux-mêmes d'un arrangement institutionnel en place? Ça veut dire qu'il y a des MOU, si c'est nécessaire, signés et tout ça. Donc, si ce n'est pas signé, on dit qu'on veut faire un pont entre deux pays, mais il n'y a aucun engagement juridique à faire ce projet par le pays. Donc, vous comprenez très bien qu'on va juger ce projet non encore prêt pour une assistance donnée par l'IPPF ou éventuellement vous assister à le faire. C'est dans ce cadre-là qu'on a aussi notre instrument sœur, donc le SDM PIDA, qui est créé aussi pour pouvoir soutenir les pays, les projets dans ce domaine spécifique. Alors, il faut également voir s'il y a d'autres bailleurs qui sont manifestés pour financer le projet. Ça, c'est un critère très important parce que ça montre quand même que c'est un projet qui suscite un appétit fort et qui déjà intéresse plus d'un bailleur de fonds. Ça, c'est important parce que ça nous permet aussi de pouvoir mobiliser les ressources adéquates pour ce projet et également aussi gérer le risque de projet en le partageant avec d'autres partenaires. Donc, l'existence des coûts financiers est un critère important et qui souvent est à la charge du bénéficiaire. Donc, celui qui nous demande de financer doit pouvoir également nous dire s'il y a d'autres coûts financiers disponibles à financer le projet. Alors, une fois ces étapes passées, donc, nous, on détermine que c'est un projet éligible et qu'on a fait notre screening. Nous avons une barre de 70% à franchir. On a notre critère de notation, on note tous ces critères. Une fois c'est fait, il faut que le projet ressort avec un minimum de score de 70% avant d'être accepté éligible. Une fois c'est fait, et donc on notifie le bénéficiaire et on passe maintenant à l'étape d'évaluation du projet, ce qu'on appelle appraisal, l'étape 3. Cette évaluation est faite avec beaucoup d'étapes. Donc, on programme souvent, ça s'accompagne par une mission physique. On se déplace dans le pays pour aller examiner, discuter avec toutes les parties prenantes et tous les aspects du projet. Donc, il y a d'abord la formulation des objectifs, les composantes, les estimations de coûts, les acquisitions, la gestion financière. Mais on a un canevas qu'on suit pour déterminer, nous, faire notre propre due diligence pour évaluer ce projet. Mais on le fait, bien sûr, en collaboration avec le bénéficiaire et les autres institutions concernées et les autres acteurs concernés. Alors, une fois cette étape faite, donc ce qui est une étape très importante, donc l'étape 3, une fois c'est fait, on vient à la banque, donc le gestionnaire du projet à la banque programme tout ce qui est un processus de revue interne, donc retour de mission, il y a un rapport qui est fait, un rapport d'évaluation, qui va faire l'objet maintenant à l'étape 4 hein, de processus de revue interne qui éventuellement va déboucher sur une approbation de ce projet à la banque. Donc on prépare ce qu'on appelle le PIM, qui est le Project Information Memorandum. Une fois c'est fait, on va, nous, à la banque, selon nos processus, examiner le projet avec d'autres experts de la banque. On voit très bien que le gestionnaire du projet a une grosse responsabilité. Il doit maintenant, lui, vendre ce projet à l'interne pour que ça puisse être approuvé par les pairs, ça veut dire par les autres départements et tous les organes de la banque concernés. Donc, ce n'est pas une tâche facile. Il ne suffit pas qu'on accepte un prêt, ça veut dire qu'on passe l'étape 2, l'étape 3, que le projet est approuvé. Non, il faut absolument que le projet soit accepté à la banque. Donc, la banque va passer au peigne fin tout le PIM pour s'assurer que c'est un projet porteur sur lequel la banque peut mettre des ressources. Et donc, une fois cette étape passée, le projet approuvé, donc ça implique les avocats, les juristes de la banque, ça implique tous les experts en passation de marché, ça implique d'autres experts techniques, hein, donc des ingénieurs, tout, des économistes, et tout le monde met un peu la main à la pâte. Et donc, une fois c'est fait, on prépare ce qu'on appelle le letter of agreement, qui est le LOA, qui maintenant est le document juridique qui va être signé avec le bénéficiaire. Une fois c'est fait, maintenant, avec les conditions, et on déclare la mise en vigueur du don. C'est signé par le pays ou le REC en question. Et une fois c'est fait, on déclare le projet en vigueur et donc la mise en œuvre commande. Donc, c'est l'étape 5. Étape 5 qui est purement une responsabilité, on va dire, entière du bénéficiaire. Donc, la mise en œuvre de projet relève de la responsabilité primaire du bénéficiaire. C'est lui qui met en œuvre le projet. Nous, à la banque, on s'assure que la mise en œuvre suit les politiques et procédures de la banque telles que consignées dans le LOE. Et c'est en fonction de... Ce sera notre rôle, nous, de s'assurer que c'est fait et aussi de s'assurer que la mise en œuvre suit ce qui a été convenu dans le PIM et dans le Letter of Agreement. Donc, on a un rôle de superviseur à faire, on a un rôle d'assistance à faire, mais la mise en œuvre effective relève de la responsabilité directe du bénéficiaire, du projet. Alors, donc, on a des revues ponctuelles que nous, on effectue. Le bénéficiaire est tenu de nous tenir informés. Et une fois c'est fait, donc le projet est déclaré fini. On fait encore une autre évaluation de la mise en œuvre de ce projet, ce qu'on appelle le PCR, Project Completion, donc Completion of Study. Une fois c'est fait, ça c'est pour tirer les leçons, s'assurer que le projet a été exécuté tel que conçu, les règles ont été suivies, chacun a mis du sien dedans, y compris les consultants recrutés pour faire les études. On évalue tout ce monde et on fait un rapport. Ce rapport, on fait une notation et il faut avoir une notation satisfaisante. Sinon, vous voyez très bien que ça peut avoir des conséquences sur le projet futur. Donc, une fois c'est fait, on estime que ce projet est préparé et donc on pourra maintenant passer à l'étape de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre physique du projet. Donc, c'est une étape très importante qui servira à mobiliser le financement. Donc, la préparation du projet, comme vous le savez tous, vraiment est l'élément déclencheur de tout investissement de projet. Next. Et le rôle que joue le NEPA LPPF est très important dans ce domaine. Alors, ça, c'est juste pour vous donner un aperçu vite fait de ce que nous avons pu faire. Ça veut dire que le fonds NEPA LPPF a pu faire jusqu'à présent. En gros, 92 projets approuvés, 60 sont complétés, donc finis, 22 en cours. Et ceci a demandé une mobilisation, à ce jour, les bailleurs de fonds qui soutiennent ce fonds, permettez-moi de les citer ici, il s'agit du Canada, il s'agit du Danemark, il s'agit de l'Allemagne, il s'agit de l'Angleterre, donc du Royaume-Uni, il s'agit de l'Espagne, il s'agit également de la Banque africaine de développement elle-même. Non seulement elle héberge, mais également aussi contribue financièrement. Et donc, voici les bailleurs de fonds qui ont mis en gros à peu près 110 millions de dollars dans ce fonds depuis sa création, on va dire, en 2004 jusqu'à aujourd'hui. Et ceci continue. Et donc, en tout, ceci pour nous a été déterminant pour soutenir ces 92 projets que vous voyez en haut et dont vous voyez un peu le breakdown. Par secteur et aussi par région. Donc, on voit que le secteur, je vois très bien le secteur transport, énergie, sont quand même les gros secteurs bénéficiaires du NEPA LPPF. Donc, c'est les secteurs d'infrastructure économique qui demandent beaucoup de ressources pour préparer. Et donc, la préparation coûte excessivement cher pour ces deux secteurs. Et aussi, c'est les secteurs qui aussi attire beaucoup plus d'investissements, en tout cas du secteur public jusqu'à présent. Alors, suit le secteur ICT, mais pas la PPF a été vraiment un fonds catalyseur qui a permis à interconnecter de façon physique, que ce soit terrestre ou maritime, les interconnexions ICT sur le continent. On a toute une liste de projets qu'on a soutenus qui ont permis à l'Afrique aujourd'hui de quand même permettre à l'éclosion et la pénétration du mobile téléphone ou un mobile banking qu'on voit aujourd'hui en Afrique. Il y a encore du travail à faire, mais on suppose quand même qu'on a fait un grand pas en avant sur l'interconnectivité ICT du continent. Et ceci, le Népal IPPF est fier d'avoir été associé à cette aventure-là. Alors, le secteur de l'eau, vous voyez, à peu près 10%, et le renforcement de capacité, 5%, et en termes de distribution sectorielle. En termes de distribution géographique, vous voyez qu'on a l'Afrique de l'Est, si je vois très bien les couleurs, qui a bénéficié à peu près de 6% de notre assistance, suivi de l'Afrique de l'Ouest, 21%, après l'Afrique australe, qui a à peu près 16%, et suivi de l'Afrique centrale, qui affiche 17%, et donc aussi des projets au niveau continental, qui sont à peu près 4%, et l'Afrique du Nord, pardon, vient avec 6% avant les 4%. Et donc, vous voyez aussi que la répartition géographique du projet est un peu ce qu'il est. Hein. Bon, on voit que l'Afrique de l'Est est le premier bénéficiaire, celui de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on tient compte de tout ça dans ce qu'on fait, parce qu'on veut aussi assurer une certaine équité entre les secteurs dans un premier temps et aussi les régions. Mais encore une fois, on répond à la demande, ce qui est très important, on répond à la demande, et donc on répond à la demande qui vient de ces régions, qui vient de ces secteurs. Mais en tant que banque, fonds, on s'assure quand même d'avoir une certaine équité entre les secteurs et les régions, afin de s'assurer que tous les secteurs et régions bénéficient, en tout cas une opportunité de bénéficier du fonds Népal IPPF, qui est là pour les soutenir. OK, next. Alors, maintenant, vous pouvez me demander, oui, mais tout cet argent-là, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Là, encore une fois, comme vous voyez sur l'écran, avec les 109 millions que les bailleurs de fonds du fonds ont mis à disposition et que nous avons, nous, transportés sur le projet, ce n'est pas les fonds qui restent avec la banque, c'est les fonds qui vont sur le projet pour financer leur préparation, on a quand même réussi à attirer à peu près 24,6 milliards d'investissements. Donc, avec les 110 millions mis à disposition, on a quand même réussi et qu'on a utilisé, je crois, à hauteur de un peu moins de 100 millions ont été débloqués à ce jour. La banque, ces projets, une fois préparés, ont pu attirer un investissement dans l'ordre de à peu près 25 milliards. Ceci est très important de noter. Et là, vous voyez déjà, en termes de secteur, hein, c'est le secteur énergétique qui est le premier, qui vraiment de loin dépasse, et suivi du secteur transport et du secteur ICT. Alors, le secteur énergétique, ici, vous savez très bien que le projet INGA avait été annoncé avoir attiré à peu près 11 milliards d'investissements tout récemment. Donc, ceci fait partie de ces 21 milliards parce que nous, en tant qu'IPPF, on a également contribué à préparer les projets INGA, donc le grand INGA, INGA 3, que vous connaissez très bien. Et donc, ce qui donne un effet de levier très important. Donc, à chaque dollar que le NEFAD IPPF met dans un projet, ce dollar attire à peu près 861 $ en investissement pour la construction physique de cet investissement. Et donc, c'est un effet de levier très important et dont nous sommes fiers et que nous allons continuer également à démontrer dans le cadre de PIDA partout. Et ceci à cause du rôle très catalyseur qu'on joue en matière de préparation de projet. Et donc, vous voyez aussi dans la partie droite tous les projets. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais juste pour vous donner un exemple de quelques projets soutenus par le Fonds Népal IPPF qui ont, ont bénéficié des financements downstream et qui sont construits aujourd'hui. Donc, vous avez le pont récemment inauguré entre la Gambie et le Sénégal. Le Fonds Népal IPPF a financé les études, la préparation des études. Dusala et Dolizi, on a également financé. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une multitude de projets là-bas, que ce soit également dans le secteur de l'énergie. Les interconnexions Ethiopia-Kenya, on a financé. Benin-Togo-Ghana, Electricity Interconnection. Gibe 3 en Éthiopie. En matière d'ICT, il y a l'Easy Cable qui a été fait en Afrique de l'Est, qui a permis au Kenya aujourd'hui d'être un leader dans tout ce qui est mobile money. Donc, c'est grâce en partie à Easy Cable qui a été fait et dont la préparation a été assurée par Népal IPPF et Central African ICT Backbone pour interconnecter les pays de l'Afrique centrale, également d'autres interconnexions. Alors, il y a d'autres qui sont toujours en cours de construction physique, ça veut dire qu'on a préparé, ils ont réussi à mobiliser des ressources, ils sont en train d'être construits en ce moment-là. Et puis d'autres dont les constructions vont démarrer sous peu. Et donc, voilà un peu une liste qui n'est pas exhaustive, encore une fois, sur le projet, c'est-à-dire le résultat de la préparation de projet financé par Népal IPPF. Next. Alors là, on quitte Népal IPPF pour revenir un peu à la banque, donc la banque en tant qu'institution, ce que fait la banque. Donc, ici à la banque, on a plusieurs fenêtres de financement. Il y a le Fonds African Development, il y a le Nigeria Trust Fund, et puis il y a la Banque African Development. Là, c'est le FAD, donc le Fonds African Development, qui est les fonds que les donateurs accordent, enfin que la banque accorde d'une base concessionnelle, donc presque à taux zéro, mais avec quelques conditions ici et là, pour les pays sur une période longue, pour pouvoir aider les pays à faible revenu de financer leurs projets de développement. Et donc, voilà un peu l'objectif du FAD, qui est un instrument très important dont bénéficient beaucoup de pays africains. On a un classement interne à la banque qui classe les pays selon leur capacité de crédit en pays FAD ou en pays BAD. Et entre les deux aussi, il y a les pays qui sont blend. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir accès aux deux guichets, hein, dans le guichet FAD et le guichet BAD. Donc, c'est les pays blend. Ça veut dire qu'ils sont en transition de devenir des pays BAD. Et donc, c'est très important de relever ça parce que ça vraiment augmente les possibilités de financement des pays avec la Banque africaine de développement. Que tu sois classé FAD, ça ne t'empêche pas également d'avoir accès aux ressources BAD sur des projets spécifiques, surtout le projet d'infrastructure, ou bien de bénéficier des deux pendant un certain moment avant de se qualifier exclusivement pour le guichet FAD. Donc, ceci comprend une composante prêt, une composante don. Donc, il y en a les pays classés FAD qui sont éligibles pour les deux composantes. Il y en a qui sont éligibles juste pour la partie prêt et aussi ceux qui sont éligibles juste pour la partie don. Donc, il y a trois possibilités dans cette catégorie. C'est des prêts concessionnaires, donc ceux que la banque met à disposition des pays. Et ce fonds est alimenté par des ressources des bailleurs de fonds, donc c'est le fameux replenishment ou la reconstitution du FAD, hein. Donc c'est les cycles de reconstitution, à peu près 3 ans, chaque 3 ans la banque organise des cycles de reconstitution du FAD, le FAD qui est contribué en grande majorité par les pays donateurs que tout le monde connaît très bien, qui sont membres de la banque tous, et ces pays donateurs mettent à disposition ces fonds à la banque pour que la banque puisse retrocéder ces fonds à des pays jugés à faible revenu. Et la Banque africaine de développement elle-même aussi contribue à travers ses revenus en partie aussi au FAD, mais c'est assez minime. Next. Alors, donc, le deuxième guichet, qui est le guichet ADB, donc le guichet de la BAD, en tant que Banque Africaine de Développement elle-même, donc c'est le guichet BAD, qui finance également avec le FAD les infrastructures. Donc, le FAD également finance les infrastructures et également la Banque Africaine de Développement, enfin, le guichet BAD, hein, le guichet BAD aussi. Vous voyez très bien dans le schéma qui vous est présenté là, il y a financement des infrastructures, il y a la partie dette et la partie ressources propres, qu'on s'appelle, enfin, qui est communément appelée equity. Et donc, la partie dette vient en sous deux formes, donc le corporate loan, donc les prêts corporate, et puis les prêts projets. La partie equity vient souvent, ça se manifeste souvent à travers une prise de participation de la banque dans les fonds, dans les equity funds pour les infrastructures. Alors, donc, j'avais expliqué il y a quelques instants les différents sous-secteurs que vous voyez là, je ne vais pas les répéter. Il y a énergie, transport, ICT et water avec tout ce qu'on peut financer comme projet ou les sous-secteurs qui sont éligibles au financement dans ces projets. Next. Alors, pour le secteur privé, ça, c'est une partie importante. On a parlé tout à l'heure du souverain, donc ça veut dire ce qu'on fait dans le domaine public avec le gouvernement et les entreprises publiques sous garantie souveraine émise par le gouvernement. Et il y a le projet aussi confiant dans le cadre du secteur privé, surtout dans le PPP. Et là, il y a une série d'instruments, c'est là où on a une panoplie d'instruments qui sont assez diversifiés pour répondre aux besoins du secteur privé. Il y a ce qu'on appelle le senior debt, donc la dette senior, qui a une maturité de 15 ans avec 5 ans de période de grâce sur le projet au secteur privé, donc porté par des sponsors privés, qui souvent est fait en monnaie, en devise ou en monnaie locale, et la banque ne finance que jusqu'à un tiers du coût total de ce projet. Donc, il est très important de préciser cela, parce que la banque ne finance pas 100% d'un projet porté par le secteur privé, non. Tandis qu'on prend une part en finançant jusqu'à hauteur de un tiers. Donc, les deux tiers seront financés par le sponsor lui-même ou d'autres, ou avec d'autres financiers. Ceci, comme vous le savez, c'est pour minimiser le risque que peut prendre la banque sur un projet. Alors, on fait aussi la syndication, donc des cofinancements plateforme. Syndication, comme son nom l'indique, la banque peut avoir un mandat sur un projet beaucoup plus gros que ce qu'il pourrait lui-même injecter. Et donc, elle prend sur elle d'aller mobiliser d'autres financiers en syndiquant, en prenant une part et puis laisser les autres parts pour les autres financiers de prendre, mais en faisant la coordination. Et donc, d'où l'approche syndication que nous développons aussi, que nous faisons très bien à la Banque africaine de développement, à cause, bien sûr, de notre position financière et aussi de toute la solidité financière de la banque en tant que banque de développement. On a des garanties. Donc, il y a deux formes de garanties que nous mettons à disposition des projets. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a des exemples, je ne sais pas si on l'a dans ces présentations, mais sans ces garanties, très souvent, certains projets ne peuvent pas se réaliser. Et donc, encore une fois, c'est le projet où il y a une participation du secteur privé. Et on l'a beaucoup utilisé dans le secteur de l'énergie, où il y a un producteur indépendant d'énergie qui prend un projet, un gros projet, il produit de l'énergie, il veut vendre ça à la compagnie d'électricité du pays. Mais des fois, compte tenu de leur faible situation financière, ceci pose un risque pour ce producteur, un risque de remboursement déjà. Donc, c'est ça qui est le partial credit guarantee. Et puis, l'autre risque, c'est le risque partial risk guarantee. Il y a plutôt un risque de revirement de situation politique dans un pays, à peu près pour atténuer un peu les risques politiques ou les risques de revirement de politique dans le secteur. Le gouvernement peut avoir un cas hypothétique. Le gouvernement décide de ne plus acheter de l'énergie ou bien change de politique qui fait que les investissements réalisés par le secteur privé deviennent un peu redondants. Et donc, il faut que le secteur privé se couvre pour ce risque par rapport au revirement de politique par le gouvernement et aussi au manque de paiement ou au risque de paiement qui est lié au risque de crédit. Donc, ces deux risques-là sont très importants. Et la Banque africaine de développement, en tant que banque de développement et pour promouvoir l'investissement privé, a mis à disposition de ces pays-là les deux risques. Et c'est un risque qu'on essaie d'utiliser surtout dans le projet de l'énergie, disponible également pour les projets de transport, de l'eau et de ICT. Il y a subordinated debt, qui est une forme de dette qui se fait aussi après le senior debt sur le projet d'infrastructure. Et là, ils ont à peu près les mêmes conditions de financement qui sont aussi sur une période longue avec une période de grâce jusqu'à 5 ans. Il y a les equity qui sont des fois de façon directe. On peut prendre jusqu'à 25% de prise de participation sur un projet ou bien indirect en injectant du capital, en prenant une participation au capital dans un fonds dédié au financement des infrastructures. Donc, il y a une série de fonds dans lesquels la banque a mis du capital en equity de façon indirecte pour soutenir le secteur des infrastructures. Il y a aussi les assistances techniques. Donc, c'est en gros ce qu'on vient de parler, les 25 listes qu'on a montrées tantôt et aussi la description exhaustive qu'on a faite sur le fonds de préparation. Le projet n'est pas les PPF, c'est de l'assistance technique que la banque donne. Donc, il y a des fonds de préparation de projet de faisabilité, des fonds pour renforcer les capacités des institutions qui portent les projets régionaux et aussi de l'assistance technique pour renforcer les liens qui peuvent être entre les petites et moyennes entreprises et également tout ce qui est advisory. Advisory, c'est l'accompagnement des projets pour amener au financement du secteur privé. Donc, voyez, voilà un peu décrit un certain nombre de séries d'instruments que la banque dispose pour appuyer le secteur privé. Ceci est valable également dans le secteur de l'infrastructure. Merci. Alors, donc, ça, on en a parlé un peu des critères d'investissement pour le secteur non souverain. Et donc, je dirais plutôt pour le secteur souverain. Il y a ces quatre critères-là dont on a parlé. Alors, il y a un quatrième qui est ce qu'on appelle l'additionnalité. Additionnalité, ça c'est très important pour nous parce que la banque étant une banque de développement doit ajouter de la valeur dans tout ce qu'elle fait. Et donc, pour nous, un projet sur lequel on voit une additionnalité très claire, ça veut dire que notre structuration, notre participation va permettre au projet d'atteindre son objectif. Ça veut dire qu'une fois la banque est dans un projet, elle va contribuer à atténuer les risques politiques et à jouer un rôle catalytique dans ce projet, ce qui n'est souvent pas évident. Et donc, il faut qu'on arrive à démontrer qu'on a une additionnalité qu'on est en train de ramener sur ce projet. Et c'est un critère très important qu'on met souvent en avant et que le chargé de projet à la banque doit démontrer au sein de la banque pour pouvoir bénéficier du soutien de la banque. Ça, c'est très important, additionnalité. Et donc, on a une série de critères qu'on évalue pour s'assurer qu'on n'est pas juste en train de faire une opération classique qui éventuellement pourrait être faite par quelqu'un d'autre, mais on fait une opération qui va être catalytique sur laquelle l'additionnalité est largement démontrée. Donc, ça, c'est un critère important qu'on n'a pas vu tout à l'heure, mais qui est un quatrième critère très, très important. Mais ceci est forcément appliqué au secteur privé, et beaucoup plus sur le projet du secteur privé que sur le projet du secteur public. Le secteur public, on l'a déjà par la viabilité, les résultats de développement, donc ça veut dire la viabilité, les critères économiques et aussi les critères financiers. Donc là, on démontre déjà l'impact du développement qui est beaucoup plus appliqué au secteur public, mais l'additionnalité vient se rajouter quand il s'agit du secteur privé. Next. Alors, critères d'investissement pour le financement non souverain. Encore une fois, je pense que là, on plus ou moins répéter un peu ce qu'on vient de dire. Vous voyez encore une fois les critères de forte additionnalité. Bien évidemment, que ce soit public ou privé, il faut respecter l'environnement. Donc, les projets qui soutiennent une croissance verte sont aussi des projets qui sont privilégiés. Et on regarde également d'autres impacts sur le développement. Alors, il y a cette notion qui fait souvent qu'on oublie, quand on parle du secteur privé, on dit oui, c'est le secteur privé. Ils n'ont pas contribué aux questions environnementales ou au développement, mais non, le secteur privé est vraiment au cœur des questions de développement, au cœur du financement du développement. Et pour nous, à la banque, on met vraiment un premium très important sur ça. Et donc, ils ne sont pas exemptés ni dédouanés des questions environnementales, transition verte et des questions de développement. C'est un acteur important dans le développement. Souvent, eux-mêmes ne le savent pas ou bien n'en parlent pas assez. Mais pour nous, à la banque, le secteur privé est le moteur. Et donc, doit être considéré et comme ça. Et donc, tenu aussi co-responsable du développement intégré, du développement vert, de la croissance verte dans tous les projets de développement qu'on fait. Donc, c'est un aspect très important à retenir et sur lequel nous on communique aussi davantage. Le secteur privé est très important pour le développement du continent africain. Next. Alors, quelles recommandations on peut faire? Je pense que là, on redescend un peu au niveau de au niveau rez-de-chaussée. Hein. Je pense qu'on avait pris quelques envols plus tôt. Là, on redescend au niveau rez-de-chaussée où nous sommes. Donc, ça veut dire le PIDA PAPTU. Quelles recommandations peut-on faire pour faciliter le financement des projets PIDA PAPTU, donc les projets dont vous aurez la charge, les projets que vous allez soumettre pour préparer. Alors, tout ce qu'on vient de dire tantôt s'applique, mais là, c'est juste en quelques mots ce qu'on peut dire ici comme recommandation. Il est important de commencer très tôt la préparation des projets parce que ça prend du temps, la préparation des projets. Hein. Vous le savez plus que nous, puisque vous gérez les projets vous-même. La préparation du projet est un aspect, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de validations à faire, surtout quand il s'agit encore plus de projets régionaux. Parce qu'un projet déjà au niveau national est suffisamment complexe en soi, et quand il s'agit maintenant de projets régionaux qui impliquent plus d'un pays, vous pouvez imaginer qu'il faut, le meilleur des cas, multiplier déjà par deux le nombre de problèmes rencontrés au niveau national. Ça, c'est au minimum. Donc, c'est très important de commencer très tôt la préparation, s'assurer que tous les éléments sont réunis, passer tous les protocoles d'accord nécessaires, regarder la mise en place des institutions qui vont porter ce projet, identifier les compétences nécessaires et les attributions nécessaires sont données à ces institutions pour le projet. Et également, les questions de capacité. Donc, il est très important pour que ce projet puisse démarrer dans de bonnes conditions. Parce que ça, c'est le facteur de blocage. Et ça, je vais vous donner un secret, le facteur de blocage pour nous, à la banque, hein, de mettre l'argent sur un projet. Si on voit que au niveau pays, institution, le minimum n'est pas requis, que ce projet ne sera pas prioritaire pour nous, même si c'est prioritaire pour la région, et on va renvoyer ce projet encore pour plus de travail, et là, vous voyez que c'est le temps qui passe. Démarrer de façon précoce les activités de préparation du projet, donc les études de faisabilité prennent du temps, et là, vous le savez plus que nous, ce qu'on a vu en moyenne sur les projets régionaux en termes de temps de préparation, c'est que ça fait à peu près 4 à 5 ans. Ça, c'est dans le meilleur des cas, 4 à 5 ans. 4 à 5 ans pour avoir un projet, une étude de qualité, une étude qui est validée, dont tous les aspects ont été validés par toutes les parties prenantes et un projet qui ne souffre pas d'ambiguïté institutionnelle, un projet qui est prêt à mobiliser les financements pour sa mise en œuvre physique. Donc, ça prend à peu près 4-5 ans pour valider tous les étapes du projet, y compris le procurement. Donc, il faut commencer très tôt. Si on a un target déjà décidé pour ce projet, il faut commencer très tôt, intégrer le fait que ça peut prendre du temps, au minimum 3-4 ans pour pouvoir le faire. Et encore, surtout, s'assurer de sa validation au niveau régional. La décision, détermination en temps opportun, donc voilà. Alors, ça devient encore plus compliqué si un projet est envisagé à être mis en œuvre par une approche PPP. L'approche publique, c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'approche classique. Mais l'approche PPP est encore plus compliquée parce qu'il y a plusieurs étapes de validation, plusieurs étapes d'études et de due diligence à faire pour que le privé soit rassuré et pour que le privé accepte de prendre les risques qu'on lui attribue et de financer le projet. Parce qu'après, c'est lui qui reste avec le projet, il a tous les risques apporté par le privé, à peu près 90% des risques sont portés par le privé, donc le risque de demande, lié à la demande, le risque lié à la technologie, et donc beaucoup de choses comme ça, surtout la demande qui est un risque vraiment qui inquiète beaucoup parce que c'est lié au cash flow, c'est lié à la probabilité de recouvrer son investissement, et imaginez pendant le COVID-19, là déjà, les risques de demande qui sont venus frapper de plein fouet les investissements de PPP pour le privé. Parce que personne ne voyait, surtout dans le domaine du transport, il faut qu'ils puissent anticiper tous ces risques et accepter de le prendre. Donc, le projet PPP demande beaucoup plus d'interactions et c'est excessivement cher en matière de préparation. Alors, nous, au fond de l'EHPAD, on a vu qu'en moyenne, il faut à peu près 3, 4, 5 millions pour préparer un projet classique entre deux pays d'infrastructures pour le secteur public. Ça, c'est un projet classique. Mais de plus en plus, on voit que même ces coûts augmentent. Mais en moyenne, on est dans les 3-4 millions. Vous voyez? Pour le projet PPP, il faut absolument multiplier ça par deux. Parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a les juristes, il y a beaucoup d'experts financiers qui vont faire ce qu'on appelle une scrutiny of this, of the project. Donc, ils vont rentrer vraiment dans le projet pour s'assurer que tout est bien ficelé pour que le projet puisse mener une vie normale pendant les 25 ou 26 ans de concession que ça va durer pour le secteur privé. Donc, ça coûte beaucoup plus et ça prend un temps beaucoup plus long. Donc, d'où aussi l'intérêt de commencer très tôt. Alors, encore une fois, la banque reste un partenaire privilégié, engagé pour soutenir les projets prioritaires. Nous avons comme objectif stratégique de soutenir au moins 75% de nos activités dans le cadre du NEPAL, IPPF, le projet PIDA. Donc, c'est le fonds qui est vraiment le fonds dédié pour préparer les projets PIDA, PIDA PAP 2. Il le fait déjà pour le fonds, pour le PIDA PAP 1, il va continuer pour le PIDA PAP 2. Et donc, pour nous, ces éléments sont très importants. Et donc, encore une fois, il faut vraiment que tous les éléments soient réunis pour pouvoir et aussi aller plutôt vers les projets prioritaires, puisque les ressources sont limitées. Et donc, on ne peut pas faire tous les projets. Il faut plutôt déterminer les projets prioritaires sur lesquels il est essentiel d'avoir une bonne préparation pour attirer le financement privé. Ça, c'est un élément déclencheur, c'est un élément catalytique. Et donc, la Banque africaine de développement est là pour mettre à disposition tous ces instruments pour soutenir le projet PIDA PAP 2 et donc vous soutenir dans vos programmes de développement. Donc, je vais m'arrêter là et solliciter des questions. Si vous en avez.
Mike?
Oui, allô? Merci.
Francis, hein?
Francis, oui, vas-y.
Oui, je vais demander si je peux une minute dire quelque chose sur la Facilité africaine de l'eau.
Oui, vas-y, bien sûr.
Merci. Et tout ce que Mike a dit sur IPPF n'est pas de, j'allais dire, s'applique à la Facilité africaine de l'eau, qui est un fonds spécial créé par la banque en 2005. Et qui est devenu opérationnel en 2006. Et jusqu'en 2019, la facilité a financé environ 115 projets pour plus de 150 millions d'euros. Et l'effet de levier un peu de la facilité est de 1 pour 34, c'est-à-dire que la facilité a pu mobiliser en investissement en aval plus d'un milliard, n'est-ce pas, d'euros. Et la différence entre, j'allais dire, la Facilité africaine de l'eau, IPPF NEPAD, comme Mike l'avait dit, et IPPF ne fait des multisectoriels et il ne finance que les projets régionaux. La Facilité africaine ne finance que l'eau, que le domaine de l'eau et de l'assainissement, et finance au niveau local, au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Quand je dis au niveau continental, par exemple, le PIDA 1 et la Facilité africaine comme le NEPAD IPPF ont contribué à financer la préparation du PIDA 1 à travers l'Union africaine, et la Banque africaine de développement était l'agence d'exécution de l'Union africaine pour la préparation du PIDA 1. La Facilité africaine de l'eau accorde des dons, pour le moment uniquement des dons, compris entre 50 000 et 5 millions d'euros, et qui est basée sur aussi la demande, basée sur la demande. Et la Facilité africaine de l'eau, compte tenu bien sûr du vaste champ des domaines et des besoins dans le domaine de l'eau, a une stratégie opérationnelle dans laquelle par période priorise certains projets. Et pour le moment, dans la stratégie actuelle, trois piliers sont privilégiés. C'est la préparation des projets d'investissement dans le domaine de l'eau, c'est des investissements catalytiques, et troisièmement, c'est la promotion de l'investissement, notamment à travers le secteur privé. Ce sont ces trois domaines dans lesquels aujourd'hui la Facilité africaine de l'eau apporte une contribution. Donc voilà ce que je voulais ajouter rapidement. Mike, merci.
Merci beaucoup, Francis, pour cette présentation. Effectivement, vous voyez que le fonds de facilité de l'eau est un fonds très important, stratégique pour la banque, et qui est là pour vous soutenir pour tous vos projets dans le secteur de l'eau. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter pour bénéficier au maximum de tous ces outils financiers dont dispose la Banque africaine de développement pour vous accompagner sur le projet du NEPAD. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir répondre à vos questions et discussions éventuelles. Merci. Merci, Krishna.
Merci, Mike, pour cette brillante présentation. Bon, je crois qu'on va déjà prendre les mains levées. Je vois qu'il y a M. Kofi qui veut intervenir. M. Kofi, allez-y, on vous écoute. M. Kofi.
Merci, Raphaël Kofi de la CDAO pour le record. Je voulais, dans un premier temps, avoir une clarification qui m'a un peu piqué. Au slide 14, le présentateur a parlé de 92 projets financés, 60 exécutés, 22 en cours, mais un silence total sur les 10 autres projets, si ce n'est pas une erreur de calcul. Alors, les 10 autres projets, est-ce que c'est parce que ça n'a pas abouti ou pourquoi on n'en parle pas, si mes calculs sont vraiment justes?
OK. Je peux répondre rapidement?
Oui.
Oui. Merci beaucoup, M. Kofi, pour cette observation. Vous avez parfaitement raison. Il manque une dizaine de projets. Effectivement, et encore aussi, vous avez raison, c'est effectivement des projets qui ont été annulés. Donc, c'est le projet annulé, cancel project. Donc, c'est le projet annulé, ce qui fait qu'on ne l'a pas mis là, mais vous avez raison. On devrait absolument le mettre pour être complet. Je vous remercie pour cette observation.
Ok, merci M. Kofi pour cette observation. Est-ce qu'il y a, je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Donc, on va regarder les questions.
Je vois Akoda.
Oui, il y a une main.
Ah, M. Akoda, allez-y. Ouais, je vois. Allez-y.
Tout d'abord, je voudrais dire merci à M. Mike pour sa brillante présentation. Et il a parlé quelque part des critères d'investissement pour le financement non souverain. Et je ne sais pas s'il peut m'aider encore à avoir plus d'éclaircissement sur cette partie, j'allais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Mike, vous voulez intervenir tout de suite ou
ouais, Krishna, oui.
Allez-y, Mike.
S'il nous écoute, peut-être.
Yeah. Allez, vas-y. Oui, oui, allez-y. Et on prend des séries de questions. Et puis,
allez, ok, d'accord. Voilà. Il y a la personne qui s'appelle User. Non, je vois Richard Condeno. Allez-y, Richard.
Mais je vous remercie et je félicite le présentateur pour ce brillant exposé. Je voudrais intervenir au niveau des projets PPP. Le présentateur nous a bien spécifié les difficultés qu'il y avait en termes de coûts lors de démarrage de ces PPP et de l'expertise juridique qu'il faudrait mobiliser. Est-ce que l'expert peut nous monter un synoptique qui nous montrerait clairement à partir de quand un projet PPP est mûr et est prêt à être financé par la BAD. Effectivement, nous, c'est un projet qui traîne depuis quasiment 2 ans. Je sais que c'est vraiment très, très délicat. Je vous remercie.
Est-ce qu'ils nous entendent, nous autres?
Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui... Vous voulez intervenir? Oui, User. Allez-y, on ne voit pas votre nom, c'est écrit User, mais peut-être faites une introduction et allez-y. Posez votre question, s'il vous plaît.
Vous écoutez l'ABM depuis Cotonou?
Pardon? Ah, de Cotonou.
L'ABM, l'Autorité de Bassin de Mono.
Ah. Oui, on écoute.
Oui, merci pour la présentation. Au cours de cette présentation, on a beaucoup entendu parler des PPP, du public. Et qu'est-ce qu'il en est exactement des organes du bassin transfrontalier? Dans quelle catégorie placez-vous les OB? Et comment est-ce que les organes du bassin transfrontalier peuvent avoir accès au financement de la BAD?
Ok, merci pour cette question. Maïs, il y a...
Monsieur Razaki, oui.
Allô?
Oui.
Oui, c'est je monsieur Razaki, l'autorité du bassin de Mono.
Le bassin du Congo, c'est ça?
Mono,
bassin du Mondo. Mono. Ok, bassin du Mono.
Bénin-Togo, bassin du Mono.
Ok, bassin du Mono, Bénin-Togo, d'accord. Ok. Mike, je pense qu'on a 3 questions. Peut-être on peut répondre aux 3 questions et puis on prend une autre série.
Ok. Krishna, s'il te plaît, tu pourrais juste me rappeler les 3 questions parce que j'avais un problème audio là. Donne-moi les 3 questions.
Ok, donc.
Je vais commencer par la dernière. Hein.
Okay, allez-y, on fait ça, ouais. Allez-y.
Francis. Ok.
Francis, vas-y.
Concernant donc les organismes de bassins transfrontaliers, et à partir du moment où ils présentent des projets. Et ils rentrent dans les mêmes champs que les autres projets d'infrastructure. Maintenant, il faut dire, si c'est un organisme de bassin lui-même qui veut présenter un projet, cela veut dire qu'il a la capacité juridique, n'est-ce pas, d'investir, n'est-ce pas, de gérer des infrastructures et d'investir. Et ce que certains organismes de bassin n'ont pas. Deuxièmement, et cela voudrait dire que l'organisme de bassin a une capacité financière à pouvoir remplir les conditionnalités et à pouvoir notamment mettre en œuvre et remplir les garanties nécessaires. Voilà, donc les organismes de bassin, en général, comme vous le savez, peuvent porter des projets, mais à travers les États membres, les États qui en bénéficient et qui portent, et notamment, deux fois, le pays dans lequel l'infrastructure principale, n'est-ce pas, y est. Mais en tous les cas, si c'est un projet, comme vous le savez, des organismes de bassin, il faut un accord unanime de tous les pays membres et tous les pays qui partagent ce coup d'eau et tous ces pays qui partageront les bénéfices. Donc, pour me résumer, les projets d'infrastructure, les projets en général des organismes de bassin peuvent être présentés directement quand c'est des fois des projets de renforcement des capacités, des projets de institutionnels, des projets de définition de stratégie, de plans d'action, etc. Quand ça devient des projets d'investissement, et en général, et c'est à travers les États au regard des capacités juridiques et financières de l'organisme de bassin. Merci.
Merci beaucoup, okay. C'est bien que tu as écouté.
Ok, merci. Ok, si je prends la question sur le PPP qui a été posée par Richard, c'est ça? C'est Richard qui a posé la question sur le PPP, c'est ça? Alors, à quel moment la banque intervient pour soutenir le projet PPP? Je pense que la banque intervient à tout moment. Pour nous, déjà dès le début. Dès le début, une fois le projet est identifié comme étant prioritaire dans le programme national de développement, le programme master plan des régions et autres, et PIDA, nous, on peut déjà commencer à travailler avec vous. Ça veut dire que déjà la phase 1 d'identification du projet. Donc, une fois cette étape passée, parce que déjà, avant même qu'un projet devienne PPP, il est un projet classique d'abord, où on fait toutes les études, les faisabilités et tout, et on regarde les options de financement. Et donc, quand les critères économiques et financiers s'y prêtent, on peut maintenant commencer à transformer ce projet en PPP et donc commencer à le structurer de telle façon. Donc, nous, à la banque, déjà au début, on est là. Donc, ça veut dire qu'à la phase 1, bon, à peu près, on a 6 phases comme ça dans le PPP. Donc, la phase 1, qui est la phase d'identification du projet, on est là, on peut vous soutenir. Le fonds n'est pas l'IPPF. Peut aider à identifier le projet avec vous. Bien, une fois que vous l'avez identifié, vous aider à structurer ce projet à un projet qui va être préparé en PPP. La phase 2, qui est aussi la phase dont je me suis beaucoup attardé durant cette préparation, enfin cette présentation, c'est la partie préparation. Donc, études de faisabilité, les études techniques et tout, pour pouvoir s'assurer qu'au moins au niveau technique, le projet solide, et donc on a revu aussi toutes les options technologiques et également les modes de financement appropriés. Alors, une fois ça c'est fait, je pense que c'est à ce stade qu'on détermine vraiment de façon tranchée que ce projet va être financé PPP parce que l'étude aurait démontré que non seulement le projet est techniquement solide, mais en matière d'options de financement, il faut plutôt aller vers PPP parce que c'est un projet qui peut générer suffisamment de ressources et qui peut être fait par le secteur, qui est mieux géré par le secteur public et qui a une technologie adaptée et maîtrisée par le secteur privé. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on change d'appui. Jusque-là, on peut vous offrir un appui classique de préparation de projet. Et à partir de ce moment-là, où on détermine maintenant que, bon, voilà, on peut aller vers la structuration de ce projet en PPP, et donc on prend une décision d'investissement dans ce sens, nous, on change maintenant on change d'appui et on vous donne ce qu'on appelle les Transaction Advisory Support, qui va maintenant vous aider le projet à le structurer en termes de PPP, à préparer tous les dossiers d'appel d'offres y afférents et à faire une préparation de tous les contrats aussi, donc la préparation juridique du projet. Et donc là, on est déjà dans la phase d'acquisition de procurement, si on peut dire. Une fois la décision est prise, que voilà, on fait PPP, et donc tout ce qui vient après va être structuré de manière spécifique PPP. Donc la banque est là, et en amont et en aval. Donc en amont, c'est ce que je viens de dire, donc c'est les instruments dont on dispose, y compris Népal, IPPF, Africa Water Facility, etc. Ça, c'est en amont. Et en aval, une fois on fait tout ça et que le projet maintenant est prêt, on a lancé le processus d'acquisition, on a désigné un concessionnaire, signé les accords, le financement réel des infrastructures de ce projet, maintenant va être porté par la Banque africaine de développement avec les instruments financiers que j'ai présentés ici tout à l'heure. Il peut être en project finance, il peut être en equity, il peut être en dette, senior dette ou subordinated dette. Et donc, on met à disposition tout ça. Et même des fois, pour que ce projet soit viable en PPP, il faudra peut-être aussi des investissements du secteur public. Parce que le gouvernement doit aussi mettre la main à la, mettre la main à la poche pour venir en cofinancement avec le secteur privé pour que le projet soit viable, rentable pour le secteur privé. Et c'est ce qu'on appelle souvent les viability funding gap qu'un gouvernement peut décider de prendre en plus de ce que va apporter le privé pour réaliser un PPP. Donc, en gros, la banque est présente sur toutes les phases de préparation de projet PPP, que ce soit en amont, donc en faisant la préparation et préparer les faisabilités et tout, et en aval, en finançant le projet physique, une fois la préparation est faite. Alors, pour votre information, nous sommes en train de vouloir mettre en place ce qu'on appelle PPP Transaction Advisory Services, qui se fait déjà à la banque, mais on veut formaliser cela en le faisant de façon plus stratégique et donc en ayant ce type d'instrument-là pour conseiller les pays, parce qu'il y a aussi un élément de conseil qu'il faut conseiller les pays sur les approches PPP ou pas avant qu'un projet ne soit présenté ainsi. Et si oui, comment le pays doit structurer tous ses projets pour arriver à un projet PPP viable et avec succès. Donc, voilà un peu ce que la banque fait. On est là sur toutes les phases. On a des instruments adaptés à chaque phase et on accompagne les pays aussi avec du conseil. Merci.
Merci, Mike, pour cette réponse. En fait, peut-être que je vais inviter…
il y a une dernière question.
Oui, oui, Monsieur Kofi, en fait. Monsieur Kofi, pourriez-vous répéter, parce que j'ai pas noté complètement votre question. Pourriez-vous répéter rapidement la question, Monsieur Kofi? Allô?
Oui, Monsieur Kofi. Oui,
mon intervention par rapport aux données la diapositive 14.
Ah, ok, ça j'ai répondu.
Ah, d'accord. Voilà. D'accord. On a vu ça. Ok, d'accord. Donc, on a une question.
Ah non, je pense que c'était Monsieur Akoda, c'est ça, donc, qui avait posé une question.
Monsieur Akoda, oui, allez-y. Monsieur Akoda.
Oui, c'est Akoda, ministère des Transports du Togo.
Oui.
Oui, je demandais à avoir un éclaircissement sur les critères d'investissement pour le financement non souverain.
Ah, d'accord. Ok.
Merci beaucoup.
Ok. Alors, pour le financement non souverain, c'est ça, hein? C'est souverain. Hein? Secteur public. Oui, ok. Bon, là, ça dépend. Parce que, comme je disais, il y a deux guichets. Il y a le guichet FAD et puis le guichet BAD. Pour le guichet FAD, il est à peu près à 20, à 20 ans sur la durée, et 20, 25 ans, ça dépend, avec une période de grâce aussi de 5 ans. Et donc, c'est des prêts vraiment à très long terme et une période de grâce de 5 ans qui sont liés. Et en termes de taux, le taux pour le FAD, avec toutes les commissions qu'il y a à la banque, serait autour de à peu près entre 1 et 2 % sinon même moins. C'est les informations spécifiques que je l'ai ici, mais là, si je ne peux pas sortir cette présentation, vous le donnez. Mais on l'a de façon spécifique, qui des fois peut changer, mais en général, c'est vraiment entre 1,5 et 2 %, pas plus, pour le FAD, le guichet FAD. Donc, c'est un taux concessionnel sur une période longue qui vraiment permet aux pays à faible revenu de financer leur projet d'investissement. Et les conditions, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est vraiment très allégé et avec des conditions assez favorables en termes de financement. Pour le guichet BAD, qui est le guichet qui est beaucoup plus adapté pour les pays à revenus classés à revenus intermédiaires par la banque, sont des ressources également sur une période longue, aussi à peu près 20 ans, sinon plus, et même période de grâce également, 5 ans, 10 ans dans certains cas, et avec un taux qui, lui, est beaucoup, un peu plus élevé que celui qu'on a dans le cas du FAD. Pourquoi? parce que les ressources BAD, le pricing de ces ressources sont calqués sur ce qu'on appelle le LIBOR, ce London Interbank Overnight Rate, qui est le taux par lequel nous, en tant que banque, on va sur le marché lever les fonds. Donc, c'est le LIBOR. Le LIBOR aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît sur le marché financier, n'est pas plus que, je vais dire, même 2%. Hein. Donc, en tout, il y a ça qui sert de base. Et après, il y a les commissions que la banque se donne le droit d'ajouter. Donc, c'est des faibles commissions. Donc, quand on met tout ça ensemble, je pense que le taux de la BAD, guichet BAD, n'est pas aussi situé peut-être entre 4 et 5 % selon la variation du LIBOR et la période de calculation. Donc, c'est des taux vraiment très, très compétitifs qui est vraiment largement en dessous de ce qu'on peut trouver avec les banques commerciales et d'investissement. Et ça, c'est les taux que pratique plus ou moins la Banque mondiale et d'autres banques multilatérales de développement. Donc, nous sommes dans cette catégorie vraiment de bas coût de transactions pour les prêts. Et donc, d'où un peu notre mandat spécifique de soutenir que le projet de développement. Vous voyez ? Et donc, c'est ça. Alors, il y a une différence. Ça veut dire que ça, c'est les prêts souverains. Maintenant, pour le secteur privé prête sur le guichet BAD, hein, c'est clair. Et là, en plus de ce que je viens de dire, donc il y a aussi d'autres commissions qui se rajoutent pour le secteur privé. Mais une fois tout ça c'est fait, on est encore largement en dessous de ce que donne une banque commerciale. Et ça, on le dit avec certitude. Donc, on est largement en dessous de ce que donne une banque commerciale. D'où, encore une fois, notre rôle catalytique de donner des ressources pas chères pour le développement. Donc, voilà un peu ce que nous, on fait. Et tout ça, c'est grâce à notre rating, à notre notation 3A, qui nous permet, en tant que banque de développement 3A, notée 3A, par les trois agences de notation, d'aller mobiliser des ressources à bas coût, à très bas coût, pour rétrocéder presque dans les mêmes conditions au pays et sur les projets de développement. Donc, voilà un peu comment on finance nos projets. Et si vous voulez, c'est des choses qu'on peut partager avec vous et qui sont d'ailleurs sur nos sites Internet. On pourrait éventuellement partager, je pense, le lien, c'est mieux, pour que vous ayez à voir ces taux au jour le jour et voir qu'est-ce qui rentre dans le calcul de ces taux. Merci.
Merci Mike pour cette réponse très claire, très, très détaillée. Et il y a une question, une main levée de M. Camara. On écoute M. Camara. Vous êtes là? Maman Karifa Camara. Yes.
Oui, je suis là.
Allez-y, on vous écoute.
Ouais, merci bien, monsieur le président. On a suivi avec intérêt dans le cadre du PIDA. Je voudrais savoir quelle place peut-on accorder aux banques chinoises pour le financement ou bien le cofinancement des projets d'infrastructure régionale, comme par exemple les projets de chemin de fer pour lesquels les entreprises chinoises sont beaucoup plus intéressées en Afrique. Je vous remercie.
Ok, merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre dans la série? Oui, qui? Allez-y. Oui. Et pouvez-vous introduire, s'il vous plaît, qui parle?
Je suis M. Ali Mohamed Senalassé du ministère de l'Équipement et des Transports de Djibouti. Donc, merci pour votre présentation. Donc, moi, ma question, elle porte sur, la BAD, elle alloue des fois des fonds supplémentaires. Donc, comment est-ce qu'elle peut, allouer un fonds supplémentaire alors qu'elle avait déjà fait un premier pas, c'est-à-dire elle avait déjà en premier lieu donné un fonds sur tel projet, mais une continuité, elle alloue un fonds supplémentaire. Donc, il existe déjà des projets pareils. Donc, je voulais savoir quelles sont, comment dire, les conditions pour avoir un fonds supplémentaire de la PAD. Je vous remercie.
OK, merci, Monsieur Ali. D'autres questions, d'autres clarifications? S'il n'y a pas, il y a personne qui a d'autres questions? OK, donc je pense qu'on va tracer cette série. Mike, la question de Monsieur Camara porte sur quelle est la place des banques chinoises dans le financement et le coût de financement des projets d'infrastructure. Vous voulez répondre à cette question, Mike?
OK. Oui. Oui, merci beaucoup, M. Camara, pour cette question du rôle des banques chinoises et autres, dans les infrastructures, en l'occurrence, dans le certain chemin de fer et tout ça. Oui, en fait, comme toute autre banque de financement de projets d'infrastructures, les banques chinoises sont également actives dans le secteur. Elles financent, comme vous le savez très bien, beaucoup d'infrastructures. Et donc, de façon globale, même d'ailleurs, la Chine serait à peu près le deuxième financeur des infrastructures en Afrique pour les dernières années. On a un rapport qui le démontre très bien, hein, c'est le rapport de ICA, ICA, qui est un rapport sur le site, on va vous envoyer le lien, qui track un peu les sources de financement des infrastructures en Afrique. Oui, elles ont un rôle. On voit China Exim Bank financer beaucoup de projets en Afrique. On voit également le China Development Bank financer aussi des projets. Et puis d'autres banques semi-publiques, semi-privées chinoises aussi, notamment dans les infrastructures, les routes et consorts. Oui, elles sont les bienvenues pour nous. Toute banque désireuse de financer à ses critères d'évaluation et juste ses projets rentables et puis le faire. Nous, à la banque, on a également un fonds chinois qui s'appelle EDTF, African Growing Together Fund, qui est à peu près 2 milliards. Je peux confirmer le chiffre, mais je crois à peu près 2 milliards, qui est logé à la banque, géré par la banque, un fonds chinois, mis par le gouvernement chinois avec le China Development Bank, qui servent à cofinancer des projets d'infrastructure que la banque finance. Donc, ça veut dire qu'une fois la banque est dans un financement et qu'il y a une carte de financement, on peut solliciter IGTF, qui est logé à la banque, un fonds chinois, et pour cofinancer. Donc, ça se fait. Et on a réussi à peu près à financer un certain nombre de projets déjà, de ces à peu près 5-6 ans d'existence de ce fonds-là. Et donc, ça, c'est un. En plus de ça, j'ai mentionné le Exim Bank et tout ça qui sont faits. Parce que le financement des chemins de fer, c'est chaque financier voit un peu, décide un peu de quel type de projet il va financer. Le chemin de fer, ça coûte cher, très souvent. Il y a beaucoup de chemins de fer qui sont en Afrique qui sont financés par les Chinois parce qu'ils peuvent des fois mettre en place tout ce que le projet demande comme financement, sans même avoir à recourir au cofinancement. Donc, ça dépend de la capacité de ces banques à financer. Et donc, les banques chinoises sont très actives, on le voit sur le continent. Donc, encore une fois, ce rapport ICA fait un peu le monitoring des sources de financement et on voit très bien que la Chine demeure quand même un des gros financiers des infrastructures en Afrique. On a un exemple, le projet chemin de fer Mombasa-Nairobi. Au Nigeria aussi, il y a des projets de chemin de fer, il y a l'Éthiopie Djibouti, il y a plein de chemins de fer que la Chine a financé sur le continent. Donc, oui, elles sont là, elles financent des projets et la banque elle-même aussi gère un fonds chinois qui sert à cofinancer les projets, notamment du chemin de fer. Et puis, infrastructure en général. Alors, sur la deuxième question, Donc, il y a un rôle à jouer pour eux. Ce n'est pas du tout négligeable. Je pense même que dans le cadre du PIDA PAP 2, voilà les sources de financement sur lesquelles il faudra également porter beaucoup d'attention. plus des autres sources de financement existantes sur le continent. Donc, ça c'est très important à noter. Vous avez bien fait de soulever le rôle des banques chinoises. La deuxième question de M. Ali, dans quelles conditions la banque donne des fonds supplémentaires sur les fonds complémentaires, on va dire, sur les prêts déjà existants. Il y a des conditions, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des conditions. Je n'ai pas ça devant moi ici pour être précis, mais ce que je peux dire, c'est que c'est soumis à des conditions strictes. Parce qu'une fois, nous, on fait l'évaluation, c'est ça le rôle de l'évaluation de projet. C'est pour ça qu'on prête beaucoup d'attention à ça, une bonne évaluation de projet, pour avoir les bonnes estimations du coût du projet. Et donc, une bonne évaluation permet d'anticiper déjà beaucoup de risques, de dérapage de coûts, de dérapage de durée, et puis de dérapage ou bien de changement de technologie. Donc, il y a tous ces risques qui sont bien étudiés, si bien faits en amont, donc à la phase d'évaluation, on minimise le risque de recourir à des financements supplémentaires qui n'est pas quelque chose que la banque encourage. Vous comprenez très bien pourquoi. On ne peut pas l'encourager parce que ça rend toute planification un peu difficile et donc peut ouvrir la porte à beaucoup de situations non souhaitées. Mais n'empêche que si c'est le cas, il y a des conditions assez strictes. Il faut voir peut-être c'est le coût du projet qui a flambé. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Il peut être dû au coût d'importation, peut-être, qui ont changé, peut-être suite à une dévaluation dans le pays par rapport à une devise du pays exportateur. Et donc, ça, oui, ça peut donner lieu à un changement radical du coût du projet. Ou s'il y a un changement de design dans le projet, qui fait qu'une technologie initialement envisagée n'existe plus, ou bien caduque, ou bien ne répond plus aux exigences, et qu'il fallait adapter la technologie, ou bien réadapter une technologie, ça peut donner lieu aussi à des changements de coûts qui peuvent justifier pourquoi il faut demander des conditions supplémentaires. Ça peut aussi lier juste au design, au changement de design. Ça veut dire que initialement, ce projet était fait pour alimenter peut-être un projet d'adduction d'eau, alimenter un certain nombre de populations et que dans le changement prioritaire du pays et tout, il faut l'élargir à telle région pour des raisons vraiment justifiées. Ça peut aussi donner lieu à une modification ou à un surcoût qui peut être justifié selon le désir du pays. Donc, si c'est fait, donc il faut que ces conditions soient réunies, donc il faut que ça soit bien justifié, et qu'il y a aussi des ressources disponibles pour l'allocation pays. S'il s'agit d'un pays FAD, bien évidemment, il faut qu'il y ait des ressources disponibles dans l'allocation faite au pays, parce que le FAD suit une logique d'allocation pays par année et tout ça. Donc, il peut voir s'il y a une allocation qui reste encore pour qu'on puisse faire, mais en faisant ça, c'est qu'on va forcément enlever ça sur notre projet pour pouvoir financer celui-là. Donc, nous, notre position, c'est de ne pas l'encourager, c'est de le minimiser, c'est de ne même pas avoir recours à un fonds supplémentaire. Et je pense que c'est seulement dans les cas extrêmes que ça peut se justifier. Et on a une politique en la matière pour ce qu'on appelle supplementary loans qui gouverne un peu ce genre de soutien. Mais en général, c'est des choses. Et puis aussi les contingency. Hein, quand on fait l'évaluation, il y a un budget contingency qu'on inclut dans le budget qui est approuvé en premier lieu, qui peuvent également servir déjà de pallier à ces genres de risques de surcoût au cas où cela s'avère nécessaire. Donc, il y a le contingency qui est là, qui sert également à assumer ce rôle-là. Donc, si contingency a été utilisé et que ça reste encore un besoin supplémentaire, je pense qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'options, mais la banque peut regarder, mais avec des conditions assez strictes, comme ce que je viens d'énumérer. Merci.
Merci, merci, Mike, pour cette réponse très claire. Une seconde. Vous m'entendez là? Oui. Monsieur Babana Dieu du Mali, du secteur éthique du Mali, vous avez levé la main, donc on vous écoute, monsieur Babana Dieu.
Voilà, moi j'ai une question et une remarque. Je commence par la remarque. Vraiment, l'exposé d'aujourd'hui là, c'était excellent, je suis très très ravi. Maintenant, mais j'ai une remarque, tous les tableaux pratiquement sont en anglais. Bon, je suppose que ces tableaux seront sur le réseau, sur le site qu'on pourra consulter après. Et en ce moment, si c'est possible de traduire ces tableaux-là en français avant de les mettre sur le site. Maintenant, ma question, parce que j'avais perdu le réseau à un moment, quand on parlait de 92 projets, dont 60 réalisés, 22 en cours et 10 rejetés. Bon, je voulais poser la question parce que lors des rencontres, on avait dit que des projets qui n'ont pas pu être réalisés pendant le PIDAPAP, hein? Alors si vraiment ils sont intéressants et nécessaires, qu'on pourra les reconduire au PIDAPAP 2. Bon, alors que le présentateur nous fait savoir que ces petits projets sont rejetés, bon, est-ce que ce n'est pas possible, si vraiment ils sont nécessaires, de les recadrer pour le PIDAPAP 2? Voilà la seule question que j'ai à poser. Merci.
Ok, merci Monsieur Babanadio. Nous avons Jerry Alassani de la CDAO et Younes. On écoute d'abord Jerry. Allez-y Jerry.
Oui,
merci. Excusez-moi, j'ai dû, pour des raisons techniques, j'ai été déconnecté.
Allez-y.
J'ai suivi la présentation jusqu'à la fin. Donc, mais c'est au démarrage des discussions que j'ai perdu la connexion. Donc, merci pour la présentation. Vraiment, nous avons été édifiés sur les questions de financement. Et je commencerai par la question évoquée par le précédent intervenant juste avant moi. Je ne sais pas si ça a été discuté avant, mais je voudrais savoir si un projet était dans PIDA 1, n'a pas connu d'évolution, mais se retrouve dans le document dans le stratégique, le master plan au niveau régional. Actuellement, il peut toujours être soumis.
Ok.
Ça, c'est un.
Oui.
Okay. Ça, c'est un. Bon, les deux autres points sont des doléances que je voudrais formuler. Je me suis rendu compte que au niveau du secteur de l'eau, avec l'intervention de M. Francis Ansu, nous avons d'autres opportunités que nous pourrons saisir de ce côté-là. Donc, je voudrais vraiment solliciter M. Francis et Labad en général pour que nous puissions avoir une session un peu spécifique avec nos responsables en charge des ressources en eau pour pouvoir partager l'information sur les opportunités qui existent et également, comme nous le savons tous dans la sous-région, le Sénégal accueille l'année prochaine le 9e Forum mondial de l'eau. Donc, c'est la première fois en Afrique subsaharienne. Donc, il serait bien que nous puissions explorer toutes les opportunités, les connaître et pouvoir les saisir pour ce forum-là et au-delà de ce forum. Merci.
Merci pour cette question. Je vois il y a Younes, peut-être Younes. Vous avez une question, Younes? On vous écoute?
Oui, oui.
Allez-y.
Oui. Bonjour Krishna, bonjour Mike, bonjour les collègues. Ma question, c'est par rapport au fonds IPPF NEPAD. C'est clair que Mike il a expliqué par rapport au projet lors de la réalisation les différentes modes comment on procède par demande puis lors de l'implémentation. Mais ma question par rapport au projet PIDAPAP 2 qui sont déjà dans les phases préliminaires, les phases d'études, les pré-faisabilité, les faisabilités. Par rapport à ces projets, lors du PIDA PAP 2, est-ce que la banque c'est, qui va étudier ça et va dire quel projet la banque va contribuer à quel projet, ou bien c'est aussi sur demande des porteurs de projets pour faire la faisabilité, la pré-faisabilité des projets PIDA PAP 2 en phase d'étude ou bien phase préliminaire? Est-ce que c'est automatiquement sera fait par la banque pour les projets PIDA PAP 2 ou bien également sur demande des porteurs de projets, soit les REC, soit les pays membres? Voilà, c'est ça ma question, Krishna. Allô?
Oui, Younes, oui, c'est bon. Oui, on a bien noté. Merci. Oui, je pense que c'est Christina, peut-être qu'elle est déconnectée.
Audi.
Okay. Ah, oui, sinon, pardon, c'est bien noté.
Oui.
Ah,
oui.
Ok, tu es là.
En fait, ouais, j'étais muted. Ouais. En fait, je crois qu'on va prendre la dernière question de M. Ali Mohamed et puis on va répondre aux quatre questions parce qu'on tient vers la fin. M. Ali Mohamed?
Oui, oui, oui.
On vous écoute pour la question.
Oui, oui, non. C'était d'abord, je voulais juste apporter un commentaire sur les financements chinois. Vous savez que Djibouti a eu rapidement beaucoup de financements qui deviennent avec le temps, avec le coût, et vraiment des projets qui sont en termes d'infrastructure, surtout pour le chemin de fer et le projet d'adduction d'eau qui nous a coûté très cher. On va commencer à les payer et peut-être à partir de l'année prochaine. Ça, en termes de coûts de financement, ça devient cher. L'année dernière, je crois, quand il y a au dernier sommet avec les chefs d'État africains, je crois que beaucoup de chefs d'État ont demandé à ce que la Chine finance les projets sous forme de dons. Parce que l'intérêt, ce n'est pas de trouver encore des financements sous forme de prêts consensuels. À terme, c'est les projets régionaux qui répondent à des critères régionaux, c'est-à-dire qui sont sollicités par deux ou trois pays, peuvent bénéficier des financements chinois, puisque la Chine, avec les financements qu'elle a eu, veut financer les grands projets d'infrastructure comme le chemin de fer, qui sont très coûteux pour les États et vraiment des difficiles à amortir même sur 50 ans. Et tout à l'heure, le représentant de la Banque africaine a précisé qu'il y avait un financement disponible, mais je pense que c'est souvent sous forme de prêt. La question que je voulais poser, est-ce que finalement, la Chine a accepté de financer les projets et sous forme de financement dont pour les projets régionaux? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question va être sur dans le critère des GBT et puis la PIDA 2. Je pense que, comme vous le savez, récemment, il y a pratiquement moins d'une semaine, on a validé le plan d'infrastructure des pays de l'ICAD, la communauté économique régionale de l'ICAD. Ce plan, malheureusement, a mis pratiquement 10 ans pour être finalisé. Et va être soumis bientôt, peut-être, je ne sais pas s'il va être soumis, mais ce plan de l'ICAD n'a pas encore été validé par le Conseil. Et dans les critères que vous aviez choisis, qui sont pour parler d'un projet éligible, vous avez dit que c'est des projets des communautés économiques régionales à terme qui vont servir de base à tous les projets en cours dans le cadre de l'agenda 2031 pour interconnecter l'ensemble des pays. Mais juridiquement, à quel moment on peut dire que les communautés économiques régionales ont validé, donc validé par leur structure de conseil des ministres, après par les chefs d'État? Tant que ces projets ne sont pas validés, est-ce que juridiquement, ce sont des projets sur lesquels la PIDA peut travailler, puisque finalement, ces projets n'ont pas été validés par le conseil des ministres? Et la troisième question que je voulais poser, c'est un problème de un peu d'éthique et puis de... un peu de déontologie. Je vois que dans le cadre des projets, beaucoup de communautés, c'est les mêmes consultants qui travaillent dans le cadre des projets des communautés économiques régionales. Après, ils travaillent aussi, je pense, avec l'Union africaine. Finalement, les advisors pour les communautés économiques régionales et pour l'Union africaine, c'est à peu près les mêmes gros cabinets de consultants. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts? Est-ce que c'est un peu anormal qu'on se retrouve de les chapeauter par plusieurs structures et c'est les mêmes? Ils valident les projets d'infrastructures régionaux, puis après, ils sont avec, dans le cadre des projets de l'Union africaine, encore avec vous pour valider. Et j'aimerais maintenant demander à ce que des parce que mon ministre il est très sensibilisé sur ça, parce qu'il pense que nous, Djibouti n'a jamais bénéficié des projets se prendre dedans pour les infrastructures, et que si ça vient, il faut que la demande soit faite simultanément par la communauté économique régionale et par les États. Parce qu'il y a un projet en cours avec la BAD, avec l'Éthiopie. Je crois que nous, on a bénéficié de 5 millions d'euros. Pratiquement, la grosse partie va aller à la partie route en Éthiopie. Et c'était pour la faisabilité de Western Border pour Galilée et d'Awalé. Par la suite, si après les études, il se peut que et peut-être la BAD elle va financer une partie du tronçon. Il y a un gap qui nous compte sur Derir Khalafi. Il y a un gap de financement qui nous manque. Et donc, dans la fiche de projet que vous avez soumise dans le cadre de PIDA 2, est-ce que ces fiches sont remplies par les comités économiques régionales ou par les États? Moi, j'insiste beaucoup pour dire à la fois juridiquement jusqu'à quand ces projets sont proposés et validés par les comités économiques régionales et jusqu'à quand, à quelle date on peut avoir la liste des projets, c'est ce que mon ministre demande, la liste des projets définitifs qui va être soumis à l'Union africaine. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Ok, merci Monsieur Ali. Bon, peut-être que peut-être il y a quelques questions administratives que vous avez posées que je peux déjà toucher, et puis je vais laisser les membres du groupe de travail du Task Force compléter peut-être. Donc par rapport à votre question sur qui soumet les projets, est-ce que c'est les CER ou est-ce que c'est les États? Je dirais que ça dépend des régions, des CER. Dans certains cas, par exemple, la CDAO a pris un rôle très, très, je dirais, actif, et nous ont même demandé, ils ont joué ce rôle fédérateur de centraliser les projets, de valider ces projets par rapport au master plan, au plan directeur, et de soumettre même les projets. Donc, la plupart des projets de la CDAO région Ouest sont soumis par la CDAO. Mais d'autres régions comme la région Sud, SADC, eux, ils préfèrent l'inverse, c'est-à-dire que ce soit les États membres qui aient du ownership, qui aient de l'appropriation des projets. C'est plus de bas en haut, mais ils valident quand même le projet. Alors, ça dépend entièrement c'est flexible, c'est très flexible. Mais dans les deux cas, il faut avoir ces deux composantes-là, donc appropriation, ownership par l'État membre, mais validation par le CER. Alors, la date limite pour tout ça, pour la soumission et la validation dans le cadre de PIDA 2, est le 30 juin. Donc, ça, c'est une des questions que vous avez posées. Par rapport à votre question sur les consultants éthiques, etc., bon, moi, à ma connaissance, je suis pas au courant qu'il y a des cabinets qui valident les projets. En fait, moi, les projets sont soumis et sont validés par le Task Force. La Task Force, peut-être que nos collègues vont commenter là-dessus. Il n'y a pas, à ma connaissance, de cabinet qui valide. Il y a peut-être eu un cabinet pour faire les études sur les critères, mais il ne participe pas à la validation des projets. C'est plus loin. Par rapport à ce que vous avez dit sur... Oui, la question de l'IGAD, il faut que le chef d'État d'abord. Oui, effectivement, ça c'est chaque REC, chaque CER doit en fait faire valider dans leurs instances les projets. Mais quand on a suivi avec IGAD la dernière fois les deux sessions qu'ils ont eues, il nous a semblé que c'était sur le point d'être validé. Donc de toute façon, on laisse le soin à IGAD de faire le nécessaire et de soumettre les projets qui ont reçu la validation. Je pense que c'est tout. Je me souviens, j'ai pas bien noté. Votre première question, c'était quoi, Monsieur Ali? C'était quoi votre première question, Monsieur Ali?
Oui, c'était les projets. C'était pour vous demander si la Chine avait accepté de financer finalement certains projets d'infrastructure sous forme de dons.
Ah, des dons, ok.
Rigolo, bon. Voilà. D'accord. Quand vous avez présenté un fonds avec les Chinois, c'est toujours sous forme de prêt. Mais à un moment donné, je crois que l'année dernière, les chefs d'État avaient demandé à ce que les Chinois participent au financement sous forme de dons des projets régionaux.
Ok, bon, bien noté. Ok. Mike, peut-être on écoute, on complète d'abord les questions de M. Ali, puis on passe aux autres. Vous voulez rajouter quelque chose? par rapport aux dons de la Chine, par rapport à IGAD, validation par les États membres et tout ça?
Bon, sur cette question, je n'ai pas autorité, mais je parlais tout à l'heure du fonds chinois géré par la banque, EDTF, qui contribue à cofinancer des projets d'infrastructure en Afrique, qui est géré par les conditions de prêt de la banque. Donc, vous voyez très bien que c'est un fonds qui miroite un peu les conditions de prêt de guichet BAD. Donc, c'est pas excessivement cher, contrairement à d'autres prêts que la Chine pourrait donner à d'autres pays. Mais sur cette question, bon, ça c'est un avis personnel, je pense quand même qu'il revient au pays de faire tout ce qu'il faut en amont avec chaque partenaire, que ce soit la Chine, comme ils font avec la BAD, soit avec la France, les États-Unis, j'en sais rien. Mais il revient au pays de vraiment s'assurer de toutes les conditions pérennes d'un prêt avant de le prendre. Donc, un, bien choisir le projet qu'on souhaite que la Chine finance. De deux, il faut bien ficeler ses projets pour que la Chine puisse les financer. Et de trois, il faut bien négocier ses prêts. Donc, il faut réunir ces trois éléments pour que les pays ne se retrouvent pas dans une situation où on se met d'accord, on commence à démarrer un projet, on finance, après on se rend compte que ce n'est pas rentable, c'est cher. Je pense qu'il y a là un peu plus de rigueur à mettre dans l'affaire pour qu'on puisse mieux structurer ces genres de projets de prêts à l'avenir. Peut-être que c'est la leçon tirée aujourd'hui, mais je pense qu'il faudra que les États puissent le faire. Alors, nous, à la Banque africaine de développement, nous sommes là. On peut, encore une fois, comme je disais, on a un rôle de conseiller à jouer, mais si c'est un projet purement bilatéral négocié entre un pays et la Chine, bon, il revient à ce pays de s'assurer qu'ils ont bien ficelé leur projet, bien négocié, bien préparé, pour qu'on ne se retrouve pas dans ce genre de situation future. Parce que, en fait, à côté de ça, il y a aussi d'autres projets qui ont été financés par la Chine qui marchent très bien, sur lesquels il n'y a pas eu de situation pareille et qui marchent très bien. Et ça, peut-être qu'on peut aussi aller tirer le son là-bas pour voir qu'est-ce qui a été fait, comment. Pour qu'on puisse rentrer. En tout cas, nous, le fonds dont on gère pour la Chine, c'est un fonds qui suit les conditions de la BAT, du guichet BAT. Donc, ce n'est pas un fonds qui est sécurisé. Et nous, on fait toute la due diligence qu'il faut. On fait une bonne préparation, on fait une bonne évaluation. On suit tout ce que la banque fait dans ses propres financements pour que, et lui, vient juste en cofinancement et puis, paf, le projet est fait. Et donc, voilà la manière dont nous, on gère ça à la banque avec le fonds dont on a la gestion, qui est un fonds chinois. Il y a d'autres fonds aussi qu'on gère dans ce cadre-là pour d'autres compagnons de fonds. Donc, pour la question chinoise, la question de financement chinois, je pense qu'il revient au pays de vraiment s'assurer d'avoir tous les moyens possibles pour, encore une fois, bien prioriser quel type de projet il veut, comment ça va se faire, bien préparer, assurer la qualité et bien négocier. Pour notre, je pense que oui, en ce qui concerne les questions de M. Ali, Christina, tu as répondu toi-même. Moi, c'est ce que j'ai noté, que, sur lequel je peux apporter une contribution. Alors, la question de M. Younes, je pense que sa question est très directe, c'est de savoir si les projets dans PIDA PAP 2 qui sont en étude, enfin, si ces projets vont être préparés systématiquement par la banque ou bien ils feront l'objet de demandes de préparation avant de commencer leur préparation. Alors, ça, c'est une question éminemment importante. Je pense que c'est vraiment le ce qui sous-tend vraiment pour nous la différence entre PIDA PAP 1 et PIDA PAP 2.
question de financement de projet, encore une fois, revient au pays. C'est la responsabilité des pays, c'est le désir des pays. Donc, nous, oui, les projets ont été approuvés dans PIDAPAP 2, sélectionnés par les pays et tout, approuvés par le sommet, et liste est publiée. On ne va pas commencer le lendemain à préparer tous ces projets. Pourquoi? Parce que une préparation de projet donne lieu à un financement de projet. Et un financement de projet requiert qu'il y a quelqu'un qui demande, qui veut prendre ce prêt. Ça veut dire qu'un État souverain dit oui, moi, c'est mon projet à moi, je veux prendre un prêt souverain pour, et que je vais repayer pour faire ce projet. Donc, nous, on ne peut pas commencer à faire le travail si quelqu'un ne nous a pas donné l'instruction de dire, bon, voilà, je veux faire ce projet. Avant de le faire, il me manque des études. Pourriez-vous financer des études? Donc, ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour que nous, on puisse commencer à préparer le projet de PIDAPAP 2. C'est pour cela qu'on tient à préciser que c'est très important dans la sélection des projets qu'on ait ça dans des critères pour dire, voilà, ces projets qu'on choisit pour PIDAPAP 2, c'est des projets qui sont dans le programme national de développement des pays. C'est une priorité. Qui se retrouve dans le programme, dirait, le programme master plan des régions? Ça veut dire qu'au niveau région, c'est une priorité puisqu'on parle des projets régionaux dans PIDA. C'est les projets qui font l'intégration régionale. Donc, et qui se retrouve dans PIDA in fine. Donc, en fait, c'est très important parce qu'après se pose la question de financement. Comment finance-t-on ces projets? Donc, si on ne veut pas répéter les erreurs qu'on a eues à avoir dans PIDA Part 1, où une bonne partie des projets sont restés non actifs, il faudra qu'en choisissant ces projets, qu'on ait déjà l'esprit que non, en 2020, programmation du pays, on a ce projet qu'on va financer. Et donc, du coup, ça rentre dans PIDA Part 1 en 2021, 2022, 2023, ainsi de suite, jusqu'à 10 ans. Et donc, il faut que ces projets figurent dedans. Et donc, c'est à cette condition-là que nous, on peut, à la banque, démarrer une préparation parce qu'on a déjà quelqu'un, un pays s'est manifesté pour financer ce projet. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est qu'on ne peut pas de façon systématique commencer à préparer ces projets. Il faudra les faire à la demande, au cas par cas, et selon le désir des pays à faire ce projet pour cette année au lieu de l'autre. Et donc, il y aura, en fin de compte, encore une autre, une façon, de façon séquentielle, que ça pourra arriver à être préparé parce qu'on va aussi séquencer leur financement. Donc, voilà ce que je peux répondre à ça. Mais c'est une question importante, je pense, qui demeure encore avec nous, puisqu'on n'en est qu'au début des sélections de projets, mais ça fait partie de ce qu'on pourra communiquer au pays. Et s'assurer que, une fois le projet sélectionné, il faudra que le pays soit disposé à financer et à faire une demande de financement pour la préparation qui va aboutir sur le financement physique de ce projet. C'est seulement à cette condition-là que nous avons commencé à préparer ce projet. Par contre, s'il y a des projets déjà en PIDAPAP 1 là, qui sont en train d'être préparés ou sur lesquels on a reçu des requêtes, nous on continue, puisque une requête a déjà été envoyée par un pays signé par un ministre qui dit, voilà, on demande à ce que vous fassiez ça parce qu'on veut financer. Et PIDAPAP 1, sur lesquels il y a déjà des projets en cours, on doit les retrouver dans PIDAPAP 2 parce que c'est des priorités sur lesquelles on vient à peine de commencer à faire des préparations qui vont encore, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir au moins 3 ans de préparation sur lesquelles, dans la programmation pays, le pays dit, en 2025, moi, je vais prendre un prêt de la Banque africaine de développement, entre autres, pour financer l'exécution du projet. Voilà, donc il faut que tout ce plan... Donc, les ministères des plans dans les pays doivent être fortement associés à la sélection de projets. Ce n'est pas seulement une question sectorielle. C'est très important de le préciser. Ce n'est pas seulement une affaire des secteurs, des ministères du secteur. C'est une affaire des ministères des finances et de la planification aussi. Donc, avant de soumettre un projet, forcément, il faut les faire passer par ces canaux au niveau national pour s'assurer que c'est dans le plan du pays. Hein, dans le plan du pays. Si ce n'est pas dans le plan, ça devient compliqué en tant que projet PIDA. Et on ne veut pas des projets PIDA qui sont des projets complètement non liés aux priorités nationales et qui font partie du plan de développement de ce pays. Alors, la question de M. Diri, et je pense qu'il touche plus ou moins un peu à la question d'avant, donc PIDAPAP 1, PIDAPAP 2, question de reconduire d'autres projets, c'est-à-dire le projet PIDAPAP 1 peut-être reconduit dans PIDAPAP 2. Bon, ça, je pense que Christina peut clarifier. De façon, à mon avis personnel, oui, parce que un projet PIDAPAP 1 qui est toujours une priorité, peut être encore reconfirmé comme priorité un pays. Donc, il faut que le critère priorité soit quand même encore justifié. Parce qu'il y a des projets dans PIDAPAP 1 aussi qui sont dépassés. Soit ça a été restructuré, soit ça a été dépassé, et qu'il y a d'autres projets qui sont venus renforcer davantage, qui apportent beaucoup plus une solution meilleure que ce qui a été envisagé avant, d'où le changement de projet. Mais je crois que Christian peut témoigner pour nous dire comment, à mon avis, reste encore une question de priorité qui doit être faite. Alors, je termine avec la question de M. Baba, et Christina, tu pourras éventuellement revenir sur la question de Baba, c'est de savoir. Ah, oui, effectivement, voilà. Cette question a été soulevée avant, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que ce n'est pas des projets rejetés. C'est des projets, on va dire, annulés. Annulé. Ça veut dire que ces 96 projets ont fait l'objet de requêtes de financement au Népal IPPF, que la banque a traité et que la banque a octroyé des dons. Donc, ces 96-là ont bénéficié dans un premier temps des dons. Donc, c'est à traverser tous les 5 processus que j'ai décrits. Alors, c'est dans la mise en œuvre que ces projets ont été arrêtés. Certains même sont arrivés jusqu'à la fin du processus d'études, mais n'ont pas été poursuivis parce que, faute, encore une fois, du financement en aval. Ça veut dire qu'on a fini de faire les études et les gouvernements ont changé d'avis, ou bien les promoteurs de projets ont changé d'avis. Et donc, ce projet est resté chez nous, chez eux, sans suite. Donc, il arrive aussi des fois qu'on a des projets comme ça. D'autres, c'est juste parce que, bon, il n'y a pas eu de suite, donc on a approuvé un don, mais après on a annulé. Parce qu'il y a eu aussi des changements de priorité. Ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas des projets qui sont rejetés et qui peut-être que reconduits maintenant. C'est des projets qui ont été annulés complètement. Ça veut dire que c'était en mise en cours, enfin, c'était dans la mise en œuvre et ça a été arrêté pour une raison ou une autre. Surtout émanant des pays. Ce n'est pas la banque qui prend une décision d'annuler un projet. Ce n'est pas dans notre intérêt. C'est plutôt le pays qui demande à ce que ça soit annulé ou bien qui mène des actions, qui nous amène à annuler le projet. Donc, je tiens à préciser ça, que ce n'est pas des projets rejetés, mais c'est plutôt des projets annulés, cancel, qui ont fait d'abord objet d'appui, mais qui, pour une raison ou une autre, ont été annulés, abandonnés complètement. Krishna, je pense que j'ai fait le tour.
Merci beaucoup, Marie, pour tous ces éclaircissements. Alors, je vais revenir rapidement. En fait, je pense que vous avez bien répondu à toutes ces questions. Juste un petit commentaire par rapport à la remarque de M. Baba sur les diapos. En fait, on a essayé de traduire le maximum. Il restait effectivement quelques tableaux qu'on va essayer de compléter la traduction avant de les poster sur le site. Donc, la version qui sera sur le site web, on va essayer au maximum de tout traduire, de traduire tout ce qu'on peut en français. Par rapport à la question de M. Baba sur PIDAPAP 1, PIDAPAP 2, bon, ça a été bien expliqué quelle est la différence entre annulé. Par contre, quand M. Diri dit que les projets PAP 1 qui sont toujours dans le master plan, effectivement peuvent être reconduits en PAP 2. D'ailleurs, c'est fortement conseillé. Si c'est toujours prioritaire, il faut absolument qu'ils se retrouvent dans PAP 2 pour, pour être pour recevoir de l'attention, pour être dans la liste prioritaire. Et par rapport à la à votre doléance sur les sessions spécifiques, bon, on n'aura pas le temps d'ici le 30 juin de faire des sessions spécifiques, par exemple sur l'eau, etc. Mais on en a discuté, on essaye de voir comment au moins diminuer. Quand on sera un peu plus libre, en fait, il n'y aura plus la pression de la soumission de projet, tout ça. On pourra, on va vous proposer quelques thèmes très, très précis. Par exemple, sur le climat, on réfléchit sur tout ce qui est financement climatique. On voulait faire, mais qu'on n'a pas eu le temps d'organiser ou ce n'était pas vraiment prioritaire pour la soumission. Ce genre de thèmes, on va essayer de les reprendre au mois de juillet. Comme ça, ça va garder en fait cette motivation de rester en contact et d'échange, d'apprentissage, parce que il y a aussi un élément de sharing of, comment ça, de la connaissance, de partage de la connaissance et entre les pairs et entre les institutions et les États membres et les CER. Donc, on va essayer d'organiser ça. Donc, on va vous communiquer ça après. Et bon, la question d'UNES a été répondue et par rapport à la question de M. Ali, ça a été répondu aussi. Donc, je pense qu'on a, fait le tour de toutes les questions. Et en fait, bon, on est arrivé, on a dépassé largement le temps aujourd'hui. Je pense que s'il n'y a pas d'autres, je vois, je pense qu'il n'y a plus de mains levées qu'on n'a pas entendu. On a vu M. Richard et M. Ali déjà. Il n'y a pas de questions dans le chat box. Donc, je pense qu'on a, répondu.
Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Non, c'est Monsieur Ali.
Allez-y.
Là, j'ai compris dans les commentaires qui ont été faits, effectivement, le dernier mot finalement va revenir au pays qui va décider, en plus du CER, quand elle va écrire pour demander l'intention de financement de ce projet, finalement, le dernier mot va revenir aux États. Non, je voulais juste vous dire, il n'a pas répondu là sur les constructeurs qui se retrouvent au niveau des CER et au niveau de l'Union africaine. Est-ce que des conflits d'intérêts ou est-ce que ils sont advisors au niveau de la communauté économique régionale et se retrouvent aussi advisors dans les projets pour le constructeur aussi avec l'Union africaine? Est-ce que c'est pas au niveau de l'intérologie, est-ce que c'est normal ou pas? C'est la question que j'avais posée.
Bon, en fait, écoutez, je pense que tous ces consultants en fait sont recrutés de façon sur appel d'offres. Hein, il y a des appels d'offres et tout. Maintenant aussi, il faut savoir que bon, les consultants au niveau de l'Afrique, peut-être qu'il n'y en a pas, il y a peut-être moins de choix en fait de personnes qui connaissent vraiment en fait les problèmes en Afrique. Donc, est-ce que c'est potentiellement conflictuel ou pas? À voir. Hein, faudrait qu'on en parle. Peut-être on pourra en parler discuter, mais à ma connaissance, au niveau de la validation des projets, il faut faire une différence entre les consultants style IOISM, donc en fait les consultants financés par l'Union européenne. Je pense que vous référez à ça, mais eux, ils sont là à titre de conseiller, hein, advisory. Donc ils décident pas. C'est pas eux qui vont décider, qui vont trancher, qui vont je vous ai dit, c'est la task force. Et dans la task force, c'est les institutions. Il n'y a pas de consultants. C'est les quatre institutions. Donc, l'Union africaine, AODA, la BAD et UNECA. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun consultant. Donc, là, je ne vois pas la question de conflit d'intérêt ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas. Les critères ont été développés à l'origine. Le critère PAPDO a été développé par CPCS, consultant, mais ça, c'est autre chose. Eux aussi, ils ne prennent pas la décision dans la sélection des projets. OK, je pense que ça répond à la question. Et en fait, ce qui est très important, moi, j'ai bien aimé la façon dont Mike a expliqué en fait cette approche des bases en haut, mais il est allé une étape plus loin dans le pays. En fait, même quand on dit de bases en haut, on pense pays par rapport au CER, mais au sein du pays, c'est très important que le point focal de la BAD, qui est en général soit le ministre des Finances, soit le ministre du Développement économique, le point d'entrée de la BAD, soit parfaitement au courant, parce que c'est eux qui déterminent, qui travaillent sur le CSP, comme on dit ça, le plan, le Country Strategic Plan. Et si vous voulez, si le projet, un projet PIDA-PAP 2 doit être financé, il faut qu'il se retrouve dans le plan stratégique du pays, déjà. Donc, il y a cette coordination interne au niveau du pays, je dirais, au-delà de la coordination pays-CER qui est nécessaire. Ça, c'est très important que Mike Salahou nous a bien expliqué, en fait. OK, ben écoutez, je pense que, sauf Mike, vous voulez rajouter quelque chose, un mot de la fin, parce que je pense qu'on a fait le tour, il y a plus de questions.
Non, pas à mon niveau. Je pense également qu'on a fait le tour et avec une bonne attention de tous les collègues, je pense qu'on a fait le tour. Ouais.
OK, ben écoutez.
On va partager, je crois que j'ai mentionné deux liens là, qu'on va envoyer, le rapport de l'ICA et puis le lien sur le pricing des prêts de la banque. On va vous l'envoyer. On va envoyer ça à Christina.
Oui, mais si vous l'avez, vous pouvez le poster dans le chat aussi hein, pour le moment. Mais envoyez, de toute façon, on va le mettre dans le rapport à la fin, dans le petit résumé, on va le mettre de toute façon. Et puis, il sera disponible sur le site web après.
C'est ça, tout à fait. Le site web de la BAD et le site web de l'ICA.
Voilà. OK, mes chers collègues, merci beaucoup pour votre participation très active aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. Donc, la semaine prochaine, je vous invite on aura deux sessions thématiques la semaine prochaine. La première, mardi, sera dédiée à l'électricité, à l'accès durable à l'électricité. Donc, ce sera une session un peu bilingue. Donc, il y aura les intervenants anglophones, francophones, mais on va essayer de traduire. Parce qu'on voudrait faire dupliquer les sessions, mais là, il nous reste plus assez de sessions jusqu'à la fin juin. On va aussi donner la priorité au CER. Donc, mercredi, ce sera ECAS, la CEAC, l'Afrique centrale. Ce sera des sessions pour qu'ils dialoguent avec leurs membres, pour qu'on regarde la liste des projets et réponde aux questions. Et jeudi, on aura une session en fait un peu différente sur la nouvelle interface graphique qui est en train d'être développée, qui va remplacer celle de VPIC en termes de présentation graphique, beaucoup plus graphique cette fois-ci que VPIC, beaucoup plus d'interaction, de superposition de couches, etc., qui va vous permettre en fait de voir maintenant qu'on a justement pas un. On a un capital, on a un asset base de projets. On va venir superposer là-dessus les projets PAP 2 et des données, je dirais, démographiques, densité de population, etc., qui va faire ressortir beaucoup de choses. Les couloirs vont devenir plus visibles et tout. Donc, je vous invite à jeudi prochain pour cette session où le consultant qui fait ce travail va présenter son travail et recueillir tous les feedbacks, les retours des États membres et des CER pour s'assurer qu'il y ait un consensus, parce que c'est cet outil qui va devenir dorénavant cette interface graphique qui va chapeauter tous les projets PIDA, PAP 1, PAP 2, etc. Et c'est ce qu'on va un peu utiliser en fait pour faire la présentation pour le sommet des chefs d'État, pour présenter les projets PIDA. Donc je vous invite à cette session un peu différente. OK, sur ceci, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Et n'oubliez pas, le dernier délai pour les projets reste toujours 30 juin. Et je vois qu'on est arrivé aujourd'hui à 62 projets, donc ça progresse lentement. Donc, je vous invite à ne pas attendre, en fait, à poster, parce que dès que vous le mettez, ça devient visible. Les membres de les experts, les membres du groupe de travail peuvent commencer à regarder vos projets, à éventuellement vous solliciter, vous signaler s'il y a des gaps, des manquements pour essayer d'améliorer les projets. OK, ben, je vous souhaite encore une fois merci et à bientôt.
Merci à vous.
Oui, merci. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas de nous contacter aussi. Hein. On va laisser nos adresses e-mail. Et vous pouvez nous contacter directement aussi en ce qui concerne quelques requêtes que vous pourriez avoir. Moi et Francis et puis Mchira. Merci.
On pourra voir la présentation.
Oui, la présentation va être disponible sur le site. Donnez-nous un jour ou deux jours pour terminer la présentation. D'ici ce week-end, d'ici samedi, il sera là-bas, quoi, sur le site.
OK.
Ouais, merci.
Merci.